Alors écoutez, d'abord, je suis heureuse de partager avec vous ce moment un petit peu différent de ce que... Ça va? Vous pouvez vous asseoir, la jeune fille? Merci. Voilà. Nicole, donne l'exemple. Merci. Voilà, je disais que je suis heureuse de partager avec vous ce moment qui n'est pas tout à fait, disons, quotidien pour moi, puisque vous savez que j'ai envie de partager ça avec vous. Le narratif principal du campus francophone du Collège académique de Natania, et pour les uns et les autres, vous en savez quelque chose, je vois ici beaucoup de visages familiers du groupe Massa, d'autres, et puis des inconnus, j'accueille avec plaisir. Et je voudrais simplement vous dire et vous redire encore une fois que la mission principale de ce campus francophone, c'est finalement une grande aventure pour essayer de donner à chacun et à chacune d'entre vous tous les outils nécessaires pour véritablement bâtir un avenir qui soit fort, qui vous convienne, qui vous permette d'aller le plus loin possible dans votre vie personnelle, professionnelle et familiale. Et tout ça se fait autour d'une conception très particulière qui est à la fois, vous savez que cette institution est un lieu d'études et d'excellence, c'est bien entendu sa qualité principale, mais au-delà c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, d'une expérience humaine qui est très forte, qu'on a mis en place depuis de longues années, depuis pratiquement 14 ans maintenant que le campus existe, et qui consiste à essentiellement vous accompagner chacun et chacune d'entre vous au plus près, au plus proche, à la fois par des mentors, des tuteurs que éventuellement on vous accorde pour que vous puissiez étudier ensemble. Il serait un lien excellent qui profite aussi des bourses que nous pouvons récolter. Et puis vous. Et cela provoque, et Dieu merci, un très grand nombre de liens très très forts. Tandis que tous les deux, lorsque vous êtes boursiers, vous êtes engagés, et vous le faites avec infiniment de talent, de cœur et de générosité, dans des volontariats remarquables auprès d'enfants en difficulté à Natania essentiellement, et que ce tissu humain qui est formé par toute cette chaîne de responsabilités profondément juive et profondément israélienne fabrique vraiment un tissu social remarquable, et qu'au bout du compte, quand on fait un petit peu le résultat de tout ce qui est fait en chiffres, on a un gros pourcentage, 95% de jeunes qui restent en Israël, qui font leur vie ici, qui font l'armée, qui servent ce pays extraordinaire et qui bâtissent leur existence. Alors, c'est très important pour nous tous, et ce qui est aussi extrêmement agréable, c'est de voir qu'autour de nous, d'autres gens ont un petit peu la même ambition, le même désir et les mêmes missions, avec des différences, mais pas profondes complètement, puisque c'est la première fois que je rencontre le rabbin Gabriel, à qui je souhaite la très bienvenue ici. Et comme on disait Lévinas, quand on a un chez-soi, et vous êtes ici chez vous, alors sentez-vous à l'aise et sachez que nous vous accueillons toujours avec le plus grand plaisir, et que je respecte infiniment et j'ai beaucoup d'affection pour ce que vous faites pour les jeunes. Et ce soir, c'est la rencontre de quelqu'un d'assez exceptionnel, dont j'ai lu pratiquement toutes les bios et dans tous les journaux qu'on peut feuilleter au fur et à mesure des années, parce que j'ai eu la chance d'accompagner mon défunt mari qui était de Loate depuis des décennies, et qu'il était à la tête des télécommunications et du numérique dans le monde pour Deloitte. Alors le nom de Bérébi, à un moment ou à un autre, bien entendu, est devenu extrêmement en relief dans tout ce que j'ai pu lire. Et j'ai infiniment d'admiration pour ce que vous avez fait, Jérémy, mais je n'en ai pas moins pour la grande famille que vous avez. Je ne sais pas quel terme. Vous n'avez pas enfanté ça, parce que s'il s'agit de votre épouse, mais en tout cas, vous avez largement participé. En tout cas, c'est très émouvant d'entendre et égrener que vous avez 13 enfants. Donc, toutes mes félicitations. Et puis, le fait aussi que vous avez envie, et que vous le faites, de vous investir auprès de jeunes et de leur montrer la compatibilité et peut-être aussi l'énorme avantage qu'il y a en essayant de rester au plus proche du judaïsme, d'une part, et au plus proche de la vie moderne, d'autre part, tout en gardant une curiosité avec une créativité qui permet d'avancer et de conquérir de nouveaux espaces, qu'ils soient virtuels ou autres. En tout cas, ce sera sûrement très intéressant pour vous, mais ça n'est pas moins pour moi. Donc, je vous accueille avec infiniment plaisir et je vous laisse la parole. Merci.
Entendez bien? Non. Là, vous m'entendez? Non. Ça fonctionne? Ouais, on m'entend bien? Ok, nickel. Vous m'entendez bien? Nickel. Ok. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, en fait, ce que j'essaye de démontrer et de montrer par ma vie personnelle et par les conférences que je donne un peu partout dans le monde, c'est effectivement d'arriver à comprendre le message du judaïsme dans n'importe quel acte de notre vie. La grande erreur qui a démarré il y a à peu près 200 ans au moment de la réforme, ou effectivement au moment du mouvement de la Scala, etc., ça a été en fait de considérer le judaïsme comme un culte. D'accord ? Donc c'est quoi ? C'est le judaïsme, c'est on va à la synagogue, on va faire plein de choses qu'on nous demande de faire, tous pareil, tout le monde, tous ensemble. Et on sort à l'extérieur, et à ce moment-là, le judaïsme ne nous dit pas grand-chose. Bah, on va s'intégrer complètement à la culture ambiante, la culture de son pays, et on va effectivement avoir une vie pas différente d'un autre Allemand à l'époque, ou d'un autre Français, ou d'un autre Israélien, etc. etc. Finalement, en fait, l'erreur, c'est de considérer que le judaïsme est quelque chose qui est destiné au monde de la synagogue. La synagogue, c'est 2 heures, pour ceux qui y vont, 2 heures par jour, maximum, en priant longtemps, 2 heures par jour, et notre vie de juif dure 24 heures. La particularité du judaïsme par rapport aux autres religions, c'est justement d'avoir un message, un avis sur tout, et d'analyser n'importe quelle de nos actions. Notre vie professionnelle, d'accord, la manière de se comporter en tant qu'employé d'une entreprise, en tant que patron d'une entreprise, en tant que client d'une entreprise, en tant que fournisseur d'une entreprise, la vie de bon voisin, comment se comporter avec ses voisins, comment régler un conflit entre voisins. On pense très souvent que les conflits sont des disputes. Quand on entend le mot conflit, on imagine des guerres, on imagine des choses. Mais les conflits arrivent entre n'importe qui d'entre nous. Vous êtes 2 amis, vous avez 2 avis différents sur où est-ce qu'on va sortir ce soir. À ce moment-là, vous êtes en conflit. Vous avez effectivement 2 points de vue différents, 2 envies différentes. Et là, il va falloir effectivement arriver à discuter entre vous et arriver à trancher sur ces choses-là. Alors, sur le fait de où sortir ce soir, ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est spécialement important, quoique. Mais quand, effectivement, on gère la relation avec nos voisins, on gère la relation avec nos enfants, etc., les conflits, donc les divergences d'opinion, ont une place et ont une importance cruciale. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on arrive à trancher. Il faut qu'on arrive à trancher. J'ai une maison, mon voisin veut construire un mur parce qu'il pense que je peux trop voir à l'intérieur de sa maison. À ce moment-là, il faut que je puisse trancher. Quelle hauteur du mur peut faire? Qui va payer le mur? Puisque de toute façon, maintenant, on va les deux en profiter, etc., etc. Et en fait, le judaïsme, c'est surtout ne pas faire l'erreur de penser que lorsqu'on est sorti de la synagogue, lorsqu'on a fermé son livre de Torah, on n'est plus en train de vivre sa vie de juif. On n'est plus en train d'intervenir dans n'importe quel sujet. On me posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu penses de l'armée pour quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, etc. Je dis, à part la réponse que je pourrais avoir sur ce sujet, qui est un sujet à part, à l'armée, dans n'importe quel lieu de notre vie, on va avoir besoin, obligatoirement, de prendre des décisions qui vont être des décisions de bien ou de mal. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler ce soir, c'est un sujet que je connais bien, puisque je suis actionnaire de 350 entreprises dans le monde de la high-tech, dans le monde de l'Internet, dans 26 pays. Je suis conseiller des plus grands chefs d'entreprise, grandes fortunes, nouveau président de la République français, ministre, sur des sujets du numérique. Je suis l'ambassadeur de la French Tech en France, en Israël. Donc la French Tech, c'est effectivement le label de l'économie française, de la high-tech française. Je suis l'ambassadeur ici en Israël. Donc je connais extrêmement bien ce monde de l'Internet que j'ai découvert il y a maintenant 23 ans, en 1994, alors que j'avais 16 ans. À l'époque, en 1994, j'ai eu la chance de découvrir Internet à une époque où l'heure de connexion coûtait 80 francs. Ça veut dire entre 12 et 15 euros, l'heure de connexion. D'accord? Je ne sais pas si vous imaginez, c'est qu'en fait, on devait avoir un abonnement particulier où on nous comptait à la minute. En plus, on payait une communication téléphonique, on se connectait par le téléphone. En gros, j'en avais par mois 200, 300, 400 euros de frais d'Internet en faisant pas grand-chose, en restant peu connecté, etc. C'est cet Internet-là que j'ai découvert alors que j'étais encore au lycée et dans lequel je me suis plongé immédiatement parce qu'effectivement, j'ai découvert quelque chose qui était un outil absolument magique où, effectivement, grâce à l'email et grâce au fait d'être caché devant son écran et les gens ne savent pas à quoi tu ressembles, ne savent pas quel âge tu as, je pouvais avoir en fait mettre en avant mes compétences, mettre en avant certaines choses sans effectivement que les gens puissent avoir un a priori. Quand on voit une personne arriver, un petit jeune en jeans comme ça qui arrive et qui arrive devant un grand patron d'entreprise en lui disant « Regardez, j'ai une super idée », le patron d'entreprise va le regarder et va effectivement sourire, il va même pas l'écouter, il va lui dire excusez-moi, je veux de ma carte, rappelez-moi. Quand on était sur Internet à l'époque, on était à 50 000, 70 000 personnes en France, tout le monde était à la même hauteur, personne ne connaissait mon âge et je commençais à participer à ce qu'on appelait des forums de discussion à l'époque, c'est l'ancêtre des réseaux sociaux, où on participait à des discussions extrêmement sérieuses et où mon nom, en fait, Jérémy Bérébi, apparaissait à côté des noms de personnes de 60 ans, de 40 ans, de 30 ans. Et ce qui fait qu'au final, j'ai été l'un des animateurs de forums dans le monde de l'informatique et je me suis mis à 17 ans à être responsable du forum francophone de la chaîne américaine CNN, qui, un jour, c'était le jour de l'assassinat de Yitzhak Rabin, je me rappelle très bien, c'était ce jour-là. Le soir même, je me suis connecté sur ce forum de discussion et je parle avec le responsable qui me dit qui es-tu, etc. Alors je lui dis vous pouvez parler en direct et je lui dis voilà, je m'occupe du forum, tac, 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 tac. Je m'occupais de plusieurs forums sur Internet. Il dit voilà, on a un gros problème en France. Jacques Chirac est en train de relancer les essais nucléaires. On a besoin de quelqu'un qui anime la section francophone parce que c'est en train de partir en flammes. Je ne sais pas si vous savez, mais à un moment, le président français, l'ex-président français, a fait des essais de bombes atomiques. Et donc, les Américains se sont mis à nous détester, pensant qu'on était en train de, les Français, en train de détruire le monde. Et là, je me suis mis donc à rejoindre la chaîne CNN, à être responsable du forum CNN, à avoir une responsabilité dingue. J'avais 17 ans, personne ne savait que j'avais 17 ans, incluant les gens de CNN. Donc, en fait, cet avantage-là d'être au même niveau que tout le monde, de lisser en fait les inégalités de connaissances, de compétences, etc. derrière Internet, c'est quelque chose dans lequel j'ai profité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, voilà, à 39 ans, et eu énormément d'expérience, énormément de choses, grâce effectivement au fait qu'il n'y a jamais eu de barrière, effectivement, entre moi et n'importe quel patron d'entreprise, n'importe quel homme politique, etc., etc. Donc, Internet, ça a énormément d'avantages. Vous avez effectivement les Wikipédia, vous avez Khan Academy qui est absolument génial si vous voulez apprendre plein de sujets en quelques minutes, etc. Vous avez plein plein d'avantages. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est d'essayer de réaliser est-ce qu'Internet est indispensable à nos vies? Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans Internet. D'accord? On ne peut pas vivre sans son smartphone, on ne peut pas vivre sans aller consulter son WhatsApp, sans aller consulter ses mails. Il y a obligatoirement dans cette salle quelqu'un qui est en ce moment en train de consulter, je ne regarde pas, quelque chose. Et la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on est aujourd'hui en train de rentrer dans une spirale infernale, une spirale, quelque chose qui est en train, en fait, en train d'utiliser un outil qui est en train de nous captiver et de prendre l'ensemble de notre vie? Est-ce que cet outil, finalement, a certains avantages? Il faut savoir que les gens qui étudient un peu la Gemara, qui étudient un peu la Torah, se rendent compte, quand on étudie la Torah, on est en train d'étudier très souvent des textes anciens, écrits par des sages, et d'une extrême complexité. La plupart de ces sages-là, en général, avaient accès à très peu de textes. À part le Rambam, qui était à un moment au Caire, en Égypte, où effectivement il y avait des grandes bibliothèques, etc., la plupart des grands maîtres avaient accès à très peu d'informations. La plupart des grands professeurs, des grands connaisseurs, etc., ont été, et les études qu'on est en train d'étudier au fur et à mesure de nos vies, sont des études qui ont été réalisées par des gens qui effectivement pouvaient avoir accès à une masse d'informations, mais qui ont en général réussi à se concentrer sur peu d'informations. Peu d'informations, mais réussir à se plonger sur un certain, à fond dans un sujet. Le problème que l'on a aujourd'hui sur Internet, on va le résumer comme ça. Il y a aujourd'hui deux types de contenus sur Internet. D'accord? Il y a les contenus qu'on appelle asynchrones, qui sont les contenus que vous pouvez voir aujourd'hui ou que vous pourrez voir dans 5 ans. Ces contenus seront les mêmes et vous apporteront la même information. Ces contenus-là ont énormément de valeur. Pourquoi est-ce qu'ils ont énormément de valeur? Justement par rapport à leur définition. C'est que vous lisez ce contenu aujourd'hui, vous le lisez dans 5 ans, vous le lisez dans 10 ans, il aura la même valeur. On est aujourd'hui dans un monde où, effectivement, la grande majorité, 95% de l'information que l'on consomme sur Internet, aujourd'hui est une information 100% éphémère. C'est de l'information qui passe. Alors, effectivement, dans le monde de la télévision, c'était la même chose. Quand on regarde les actualités, le journal de 20 heures, effectivement, on a aussi de l'information. Et ces informations, finalement, bon, vont faire peut-être certaines fois faire partie de l'histoire. On va s'en rappeler dans 30 ans. Mais en général, les informations passent. La seule différence, c'est que le journal de 20 heures durait une demi-heure. Chaou, il y avait le journal de 13 heures aussi. Mais en général, les gens rentraient chez eux, regardaient le journal de 20 heures, regardaient pendant une demi-heure par jour. Et le reste du temps, les gens ne suivaient pas l'information. Les gens travaillaient, les gens étudiaient. Les gens essayaient de creuser certaines choses, faisaient leur job, etc. Aujourd'hui, en fait, on est rentré dans une grande spirale qui est effectivement un monde où on nous balance en permanence énormément d'informations qui n'auront plus de valeur dans quelques jours ou dans quelques heures. Et d'ailleurs, très souvent, qui n'ont même pas de valeur au moment où on nous les balance, puisque au final, ces informations sont peu vérifiées, sont peu creusées. On est très souvent en tant que Français, on est très souvent choqué par exemple par la manière dont les médias français analysent le conflit palestinien-Israël. D'accord? On est très choqué par ça. On va dire oui, c'est de l'antisémitisme, ils nous détestent, etc., etc. Nous, on connaît effectivement le conflit israélo-palestinien, on a une vision très claire de ce qui se passe, ou presque. Et on a effectivement un avis sur les médias qui vont dire, on va dire, regardez, ils sont contre nous, ils sont en train de nous taper dessus, etc. Si vous commencez à devenir expert d'autres sujets, vous allez vous rendre compte que dans n'importe quelle expertise, quasiment dans 80-90% des cas, les articles que vous allez lire, l'information que vous allez consulter, n'est absolument pas creusée et est très très souvent fausse. Très souvent fausse. Moi, je vais même vous dire quelque chose. On a écrit des centaines, peut-être milliers d'articles sur mon sujet dans les 20 dernières années. Il y a dû en avoir peut-être 10 où il n'y avait aucune erreur. 10, il n'y avait aucune erreur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la vérité et le fait d'essayer d'arriver à analyser un sujet en profondeur, c'est quelque chose qui n'a plus de valeur aujourd'hui. Pourquoi ça n'a plus de valeur? Parce qu'aujourd'hui, quand on est un site d'information, média, quand on est un Facebook, quand on est un Twitter, quand on est un Snapchat, on n'est pas en train de se soucier est-ce que l'information que je suis en train de transmettre est vraie. Ça n'a absolument aucune importance. L'information, la chose importante, c'est de savoir est-ce que l'information que je transmets va être lue et par combien de personnes? Par combien va être partagée? Par combien va être likée? Par combien va être commentée? D'accord? J'ai été journaliste, j'ai commencé ma vie à 19 ans, j'étais journaliste, 19 ans, 20 ans. J'ai été journaliste, j'ai travaillé pour des groupes médias, j'ai vu à quelle vitesse on pouvait écrire des articles sur des sujets compliqués, simplement en reprenant des communiqués de presse, ou simplement en copiant un autre, simplement en faisant des choses. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point on nous délivre une masse d'informations qui n'a absolument aucune valeur. Et là, en fait, on a un problème. On a un problème, nous, en tant que juifs. En tant que juif, il faut savoir quelque chose. Peut-être que vous en rendez pas compte maintenant. Vous n'êtes pas encore marié. Vous avez peut-être du temps libre. De temps en temps, peut-être vous vous ennuyez, comme beaucoup de jeunes. Mais un juif doit avoir la valeur du temps. C'est-à-dire, le temps doit avoir chaque minute qui passe doit être bien utilisée. Chaque temps, chaque heure, notre emploi du temps doit être réglé. On ne se lève pas le matin en disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et en allant consulter le journal de la télé ou en allant essayer de voir sur YouTube qu'est-ce qu'on peut aller voir de sympa. On doit absolument, nous en tant que juifs, on doit obligatoirement se fixer des objectifs, d'accord, qui sont des objectifs au fur et à mesure de notre vie qui vont être de plus en plus compliqués, qui vont être de plus en plus concrets, de plus en plus grands ou pas. Mais en tant que juifs, on a une obligation de faire attention au temps qu'on passe. Et aujourd'hui, avec le monde des smartphones, on est juste en train d'avoir perdu 100% de cette valeur du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, parce qu'on a un smartphone, est-ce qu'on a le dernier modèle, qu'on est dans un monde, effectivement, le monde de la high-tech, et qu'on est en train de devenir plus moderne qu'un autre, on a vraiment l'impression qu'on est en train de devenir meilleur, qu'on est en train de devenir des gens plus modernes, en train d'aller avec son temps. Il faut savoir que la plupart des gens qui m'entourent, qui sont les gens de la première heure de l'Internet ou les gens qui travaillent à fond dans l'Internet, font en sorte à ce que leurs enfants n'aient pas de smartphone à la maison, n'aient pas de tablette à la maison, il n'y ait pas d'ordinateur. Steve Jobs interdisait ses enfants touchés à l'iPhone et à l'iPad, si vous le savez. Les écoles de la Silicon Valley sont remplies d'écoles où il y a peu d'ordinateurs, voire pas. Alors, certaines fois, il y a des ordinateurs pour certaines activités, peut y avoir, mais qui ne sont pas connectés à Internet. On est tous en train de se rendre compte qu'on a créé une économie qui est comment faire pour aller prendre le temps de la plupart de la population mondiale, puisqu'on vend de la publicité, d'accord ? L'ensemble des startups, en général, dans le monde du grand public, ont un modèle publicitaire, des Google, Facebook, etc. On vend de la publicité. On a besoin donc que les gens passent plus en place de temps à digérer du contenu et à voir de la publicité. Le fait, ce qui est important de savoir, c'est que nous, les gens de l'Internet, on est en train de travailler en permanence pour essayer de vous piéger. On est en train de travailler en permanence pour analyser la manière dont vous allez scroller sur votre écran, la manière dont vos yeux vont voir l'écran que vous êtes devant votre ordinateur. Il y a des analyses, on prend des gens, on prend des salves, on met des caméras spéciales et des webcams spéciales, elle analyse le mouvement des yeux et on regarde effectivement où vont les yeux des gens quand on les amène devant une telle page. Ah mince, on veut qu'elle voit la publicité, on veut qu'elle clique dessus. Donc il faut repositionner les choses parce que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. On a des systèmes où en fait on va faire de ce qu'on appelle du A-B testing, où on va aller vous soumettre aux visiteurs 10 pages différentes, d'un même site internet. Et Facebook, d'ailleurs, il y a certaines fois, les gens ne le savent pas, mais certaines fois, les gens consultent des Facebook complètement différents ou des sites médias complètement différents. Et automatiquement, avec des outils, on va aller décider quel est celui qui va nous permettre de générer le plus de trafic, de plus d'affichage de publicité, etc., etc. On passe notre temps, quand on est une des sociétés de jeux en ligne, à savoir comment arriver à vous captiver, comment arriver à faire en sorte à ce que vous n'arrêtiez jamais. Quand on est YouTube à l'époque, on consultait une vidéo, bon, la vidéo était terminée, on nous proposait des vidéos à côté, originales. Ce qui est arrivé aujourd'hui maintenant, c'est qu'on consomme à l'infini. De la même manière que le feed Facebook est infini, la même manière sur YouTube, quand vous voyez une vidéo, quelques secondes après, il y en a une autre qui va démarrer. Quelques secondes après, il y en a une autre qui va démarrer. Il y a un professeur, je crois que c'est l'université de Cornwall, je vais vous dire, qui a fait un test. Je ne me rappelle plus de quelle université, mais en tout cas, qui a fait un test. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont invité des jeunes, pas des jeunes, des hommes et femmes, autour d'une table, en leur servant à chacun un bol de soupe. Et on leur dit, allez-y, mangez. Il y avait une différence entre la moitié des... Il y avait 50% des bols de soupe qui étaient complètement normaux et 50% des autres bols de soupe avaient en dessous un petit tuyau qui remplissait à nouveau le bol de soupe en fonction qu'on était en train de le manger, pendant qu'on était en train de le manger. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui avaient un bol de soupe qui se remplissait au fur et à mesure ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de consommer beaucoup plus. Ils consommaient 50%, voire 100% de plus. Ces études-là, pourquoi est-ce qu'on les fait ? Pourquoi est-ce que les universitaires font ces études d'analyse du cerveau, du fonctionnement du cerveau ? ces aptitudes-là et ces, comment dire, ces défauts du cerveau humain vont être ensuite utilisés pour effectivement faire ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'effectivement, on a dit, bah, tiens, Facebook, on va faire en sorte que le feed ne finisse jamais. Parce que moins il finit, on sait que les gens vont en consommer beaucoup plus. On va faire en sorte à vous fournir, à vous gaver de plus en plus en plus d'informations, etc., etc. Dans le monde du jeu, c'est la même chose. On va faire en sorte à ce que vous soyez addict, à tel point que, effectivement, on va faire en sorte à ce que vous ayez toujours un sentiment de reconnaissance important auprès d'une communauté dans un jeu. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'effectivement les gens postent sur Facebook? Les gens postent sur Facebook, pensez parce que, bah, tiens, je vais raconter ce que je fais. Non, vous postez sur Facebook parce que vous attendez à avoir de la reconnaissance. Vous attendez à ce que des gens disent like, 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 like. C'est la raison. Dans les jeux, on met les mêmes systèmes. On met des systèmes qui permettent en fait de faire en sorte à ce que quand vous utilisez en fait une plateforme, vous utilisez un jeu, on va vous donner de la reconnaissance. On va vous donner ce qu'on appelle des badges. C'est le système qui fonctionne le mieux. On va vous dire maintenant tu es super général, maintenant tu es général en chef, etc., etc. J'ai lu aujourd'hui une étude intéressante qui disait qu'en Chine, les jeux étaient devenus une calamité. Et le monde, l'Internet et les mondes des réalités virtuelles sont devenus une calamité. Il y a 400 centres hôpitaux de désintoxication à l'Internet en Chine. 400. C'est le seul pays au monde qui a classé en fait l'Internet comme le plus grave danger pour les jeunes. Et je vais vous dire, l'exemple qu'ils ont donné, il existe des jeunes qui portent des couches pour ne pas se lever de leur écran quand ils jouent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, quel genre de folie on peut arriver. Ils ne veulent pas se lever, ils rentrent dans un système, ils sont rentrés dans un système. On va dire, ah, les Chinois, ils sont complètement fous, ils sont bêtes, ils sont... Les Chinois sont les gens, moi qui ai travaillé avec des Chinois, sont les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés. Alors on dit les Israéliens sont intelligents, etc. Enfin, les intelligents, intelligents, c'est effectivement les Chinois sont absolument exceptionnels. Leur jeunesse est en fait a été complètement aspirée dans une complètement une bulle, un ouragan, un tourbillon qui a fait qu'effectivement ils se retrouvent en permanence dans un modèle où ils ne peuvent plus vivre à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'effectivement la vie online est bien meilleure que la vie extérieure. Bien meilleure que la vie extérieure. Et c'est ça en fait le point important. À partir du moment où l'on a une vie personnelle vide, à partir d'un moment où on ne se construit pas et on n'est pas en train d'essayer d'avancer dans notre vie, d'accord? À partir de là, on va aller chercher du vide. On va aller chercher des choses. On va aller chercher la dernière vidéo sur YouTube qui va nous faire rire. On va aller chercher, faire défiler sur Facebook plein de choses. Moi, un jour, moi, je m'amuse avec mes amis qui sont sur Facebook. Bon, à Bnebrak, j'ai la chance, on n'en a pas beaucoup. Mais en tout cas, avec d'autres, je leur dis, voilà, tu as passé aujourd'hui en moyenne 2 heures sur Facebook. Dis-moi un truc que tu as appris. Quelque chose que tu as appris. D'accord? C'est-à-dire, en gros, hier, tu étais une personne qui connaissait tant quantité d'informations, maintenant tu as appris autre chose. En général, je peux vous faire la même question, hein. En général, la réponse est absolument rien. Après quelques minutes de réflexion, oui, bien sûr, j'ai appris, j'ai vu des vidéos sur les mouches, du truc. Tada. Attends, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? À quoi tu es passé? Rien. Du vide. Et en fait, les Facebook, Google Co. sont tous, les Snapchat, Twitter, etc., sont tous en train de travailler pour faire en sorte à ce que vous passiez tout ce temps chez eux. Et effectivement, moins on réfléchit, plus on a envie de passer du temps. Moins on a besoin de se casser la tête. On voit une vidéo sympa. Sympa, je clique, je regarde. Alors là, effectivement, on en demande encore. Ah, c'était sympa, petit bon moment. Tac, tac. Se casser la tête, arriver à rentrer au fond d'un sujet, à devenir expert d'un sujet. Je vous ai parlé de l'historique d'Internet et du début de l'Internet pour vous dire que le début de l'Internet et l'Internet que moi j'adorais ne ressemblaient pas du tout à ça. Parce que ça coûtait cher de faire des sites, parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Moi je me rappelle la première fois qu'une vidéo a été diffusée sur Internet. J'étais là, c'était à Cannes, il y avait un festival. C'était George Michael qui avait diffusé une vidéo qui faisait le format d'un timbre-poste. où on voyait une image toutes les 10 secondes. D'accord? C'était ça le début des vidéos. Et il y avait un nouveau format qui s'appelait le Reel vidéo à l'époque, qui a été le premier format vidéo sur Internet. C'était une nouveauté. Et nous, on ne voyait pas ça comme, OK, Internet va remplacer la télé, Internet, on va passer notre temps à regarder des vidéos, etc. Pour afficher, on allait sur le site du Louvre, pour afficher la Joconde, il fallait aller dîner et revenir, et elle n'était pas terminée d'afficher. Il fallait du temps pour ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque sur Internet? Ben, on discutait, on analysait des sujets. Et pas on s'insultait, il y avait un respect des gens. On était là en train de respecter la parole des gens qui étaient en face. On savait qu'on avait affaire à des scientifiques, à des hommes d'affaires, à plein de gens intéressants, à des étudiants qui essayaient de dire des choses intéressantes. Il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas qu'il allait se faire voir et ce président est nul et ce truc est là, etc. Non, il n'y avait aucune haine, aucune tension, etc. Cet Internet-là était absolument, comment dire, pur par ses intentions. Après, évidemment, il y avait tous les contenus pornographie, etc., etc., qui sont arrivés très vite, dès que ça commençait à les images ont pu s'afficher vite. Mais ça a effectivement un autre problème. Donc moi, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, chez Google, il y a eu une réunion il y a quelques années, qui était une réunion des équipes d'Android, d'accord? Donc le système d'exploitation des téléphones Android. À ce moment-là, il faut savoir que quand l'iPhone s'est lancé, quand les premiers smartphones se sont lancés, on ne recevait pas d'alerte quand on recevait un email. Il n'y avait pas de ping, il n'y avait pas de notification. Pourquoi? Ça dérangeait 10% des gens. D'accord? Effectivement, de temps en temps, il faut aller vous consulter ces mails. Ou alors, il y avait un modèle où on pouvait faire en sorte que toutes les 30 minutes ou toutes les 10 minutes, on avait fait ces mails, mais il n'y avait pas de temps réel. Il y a eu une réunion chez Google qui a été commentée par l'ancien chief éthique, le chef de l'éthique éthiciste chez Google, qui a participé à une réunion. Et la réunion, c'était comment faire pour que les gens prennent plus leur smartphone en main? Comment faire? Parce que nous, on vend de la pub, nous, on veut que les gens utilisent Google, donc comment faire pour que les gens utilisent plus leur smartphone? Ils se sont réunis, ils ont dit, bah, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est les avertir quand ils reçoivent un mail. Comme ça, à chaque fois, ils prendront. Ah, super, bonne idée. Et il y a eu une personne qui disait, mais en fait, on peut donner la possibilité à toutes les applications de lancer des notifications. Super idée. Alors nous, on pense de l'extérieur, quand on a vu les annonces, à partir de maintenant, vous allez pouvoir recevoir des notifications, etc. Moi, premier y compris, j'ai regardé le truc, j'ai dit, ah, super, on nous rajoute des fonctions, la technologie avance. Mais on est rentré complètement dans le piège. Donc ce monsieur-là, il s'appelle Thomas Harris. Il a participé à cette réunion, a dit, attendez, on n'était pas là pour vous faire un cadeau à ce moment-là. On était là pour vous piéger. On était là pour vous rentrer dans le piège. Et ça, ce Thomas Harris a quitté Google et a monté maintenant une association qui s'appelle Time Well Spent, où effectivement, il essaye de faire un lobbying auprès des sociétés de l'Internet américain pour qu'effectivement, elles arrêtent de nous faire perdre du temps. Mais je peux vous dire, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance d'y arriver. Puisque ces sociétés-là ont besoin de croître en nombre d'utilisateurs, ont besoin que les utilisateurs passent de plus en plus de temps, ont besoin, effectivement, tout ça, ça fait pas, c'est ça la vie de l'entreprise. C'est effectivement d'arriver à faire en sorte à ce que les gens passent de plus en plus de temps. Donc dire, aidez-nous à mieux gérer votre temps, c'est complètement incompatible avec tout ça. Mais nous, en tant que juifs, finalement, on n'en a rien à faire des résultats de l'action Facebook ou de l'action Google. On n'est pas là pour aller, effectivement, regarder une entreprise et aller dire, ah ben, c'est pas grave, elle nous donne des outils, on va aller tous utiliser. Nous, ce qu'on doit faire, c'est ce que j'appelle toujours un judaïsme raffiné. Judaïsme raffiné, c'est quoi? Une vie raffinée. Une vie raffinée, c'est à chaque fois que je vais faire quelque chose dans ma vie, je vais prendre une décision, à chaque fois que je vais faire un acte, je vais réfléchir avant si cette action va être à mon avantage ou pas à mon avantage. Est-ce que cette action-là va m'amener quelque chose ou au contraire va se retourner contre moi? Les études montrent qu'aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, on les définit comme de l'addiction. C'est quoi de l'addiction? C'est le même terme qui est utilisé pour la drogue, qui est utilisé pour effectivement plein d'autres choses. Et l'addiction, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous la cigarette, quelque chose qui nous fait du mal, en sachant que ça nous fait du mal, mais le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'arrêter. La plupart des gens qui aujourd'hui deviennent sont des accros à la cigarette savent tous très bien, parce qu'en plus c'est écrit sur le paquet, que ça pose problème. Ils continuent quand même. Les gens qui se droguent savent tous très bien que ça pose problème. Ils ont vu leur ami mourir, ils ont vu plein de choses, etc. Ils continuent quand même. Internet, beaucoup d'entre nous ne savent pas que c'est mal encore, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, ne savent pas qu'il y a énormément de mal là-dedans, et donc ne prennent même pas la peine de penser à est-ce qu'effectivement je continue ou pas. Mais il faut prendre le sujet le plus rapidement possible, puisque au moment où vous allez vouloir vous en sortir, comme j'ai essayé de le faire, et comme je me bats de le faire en permanence, je vous expliquerai comment, bah c'est très très dur. Finalement, notre vie est devenue complètement accro. On est devenu complètement accro à ces choses-là. On a beaucoup beaucoup de mal à s'en sortir. Est-ce que quelqu'un maintenant, je vous dis à tous, on va faire un test, vous mettez tous vos smartphones là, je vous les rends dans une semaine, ça va être très très difficile à vivre. La plupart d'entre vous, effectivement, oui, non, oui, non, on essaye? On l'a fait? Ah, l'armée, vous l'avez fait, très bien. Ça, un bon signe. Mais ça va être très 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 dur pendant quelques jours, et au final, vous allez passer la semaine. Et vous allez vous rendre compte, ah, finalement, j'ai passé une bonne semaine. J'ai enfin fini le livre que je dois lire depuis des mois. J'ai enfin réussi à parler, à aller au resto avec mon ami et on a réussi à se parler face à face. J'ai enfin demandé la main à ma fiancée, etc., etc. Bah oui, c'est important. Pardon? Non, c'est important parce que, franchement, moi je parle des fois avec des garçons, je dis, mais t'attends quoi pour te marier? Il fait, il faut que j'y pense. Je fais, mais t'as pas le temps de penser, t'as toute la journée. C'est ce genre de choses. À un certain moment, on n'arrive pas à penser quand on est mitraillé du matin au soir, qu'on a en permanence des messages qui arrivent en permanence. Je vous prends par exemple dans les tricks aussi, les différents pièges. WhatsApp, par exemple. Pourquoi WhatsApp a eu un énorme succès? WhatsApp, quand vous envoyez un message, vous savez quand la personne l'a lu. La personne sait que vous savez qu'elle a lu. Donc à ce moment-là, elle doit vous répondre. Parce qu'elle sait que si vous répondez là, vous allez vous vexer. Surtout si c'est votre mère juive et tout, c'est une catastrophe. Si elle ne comprend pas, si c'est votre fiancé, encore pire. Enfin, donc vous répondez et la personne maintenant sait que vous l'avez vu. Donc vous allez répondre et vous allez répondre et vous allez répondre, etc., etc. WhatsApp, on leur a demandé pendant des années. Moi, je connais très bien l'un des vice-présidents de WhatsApp depuis que c'était quelques utilisateurs. Et tout le monde a demandé, il n'y a pas un moyen de désactiver ces recepts, ces accusés de réception? On peut pas les désactiver? Ils ont dit non, on n'a pas eu le temps de bosser dessus, il faut qu'on bosse dessus, ta da, da, da. Ok, un jour ils ont lancé. Ok, vous avez le droit. Je crois que c'est que sur Android. Je ne sais pas si ça marche maintenant sur iPhone. Ça marche partout? Voilà. Si vous désactivez, par contre, vous ne pouvez plus voir les accusés de réception des autres. C'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on sait que vous voulez les voir, les accusés de réception des autres. Donc on va vous faire quelque chose, on va vous dire ok. Tu veux enlever une fonction, nous ça nous dérange, on va te déranger encore plus.
C'est pareil pour les interconnexions.
Pour les?
Pour les interconnexions.
Vu aujourd'hui.
Moi j'ai levé mes interconnexions, je peux pas voir si par exemple Samuel s'est connecté à 10 minutes ou un quart d'heure.
Les heures de connexion à quoi?
On va voir aujourd'hui à quelle heure.
Oui. Ouais, c'est pareil, tout à fait. Donc en fait, on veut vous frustrer. D'accord? Ces choses-là, ce ne sont pas des fonctionnalités. Ça, ces choses-là sont pensées par les mecs les plus intelligents qu'on peut recruter. Ce sont des gens qui sont payés 1-2 millions de dollars par an, d'accord? Salaire de base, d'accord? Et ils sont 10 à réfléchir à comment arriver à vous piéger, d'accord? C'est le salaire de base, après il y a le bonus, stock option et tout. Hein. Oh. Google a voulu racheter ma boîte en 2007 et je devais co-manager Google Haifa. Mon salaire allait être 1 million de dollars par an. Sympathique. Pour vous dire. C'était juste à Haïfa. Alors j'imagine dans la Silicon Valley, le 1 2 millions, maintenant il est passé plus haut. Donc donc en permanence, vous avez en fait des gens, des entreprises qui sont là en fait pour vous voler votre temps. J'ai pas suivi mon plan, donc il faut que je rattrape. On va le faire bien. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, nous sommes tous, toujours, dans l'attente de quelque chose. On attend tous le Mashiach. D'accord? On dit Mashiach, Mashiach, le Messie va arriver. Presque beaucoup de religions attendent quelque chose, il va se passer quelque chose. Les chrétiens attendent le retour. Enfin, il y a plein de... On attend quelque chose, on attend une information, on attend un événement qui va nous transformer notre vie. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller le chercher en permanence. Toute notre vie, on va aller guetter, chercher où est l'événement qui va me rendre heureux ou heureuse. D'accord ? Donc effectivement, on va aller consulter plein plein d'informations, on essaie d'en trouver notre bonheur. On va essayer d'aller... alors je disais, c'est pas dans les livres qu'on va trouver ces informations, parce que les livres, ils ont été écrits il y a un an, et il ne s'est rien passé à ce moment-là, donc il faut aller voir des nouveautés, donc on va essayer de consommer de plus en plus. Ça, c'est un premier point. C'est effectivement le fait de toujours vouloir attendre un événement qui va se passer. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le FOMO. Vous connaissez le FOMO ? Non. FOMO, c'est la Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose. Comment l'ensemble des entreprises d'Internet fonctionnent ? Elles veulent vous faire croire que si vous ne revenez pas, mais tout le temps, vous allez rater un événement. C'est pour ça que quand on va vous taguer sur une photo, on va vous avertir et vous allez voir et en fait vous êtes tout au fond et on ne vous voit pas, on voit juste un point ou alors vous n'êtes pas du tout, on vous a tagué par erreur. On va faire en sorte à ce que vous soyez en permanence alerté, des alertes. Ah, une notification, il y a l'anniversaire de ci, il y a la notification. Et vous, vous allez voir, vous allez dire, ah tiens, on m'avertit, il y a peut-être quelque chose d'important qui s'est passé. Et en fait, on va profiter de votre peur de passer à côté de quelque chose alors qu'en fait, en général, dans la vie, il ne se passe rien. Rien qui change notre vie. Je vais être très clair, il ne se passe rien. Les événements qui changent la vie, moi j'ai 39 ans depuis une semaine, bon anniversaire. Non, non. Ah, merci, merci. Et il n'y a eu dans la vie, on va dire, 10 événements importants. D'accord ? À part les naissances des enfants, donc ça fait plus. Mais il y a eu 10 événements importants qui ont été vraiment transformants. Le reste du temps, finalement, on a fait notre job, on a fait nos choses, il n'y avait absolument rien d'urgent. Rien que l'on ne pouvait pas apprendre une semaine après. Le concept d'urgence, c'est un concept... Pardon ? Non. On a en permanence, comme j'ai expliqué, on est toujours en attente d'une information. On est toujours peur de passer à côté de quelque chose. Et on a toujours l'impression que tout est urgent. On a l'impression que si on ne répond pas à ces messages rapidement, effectivement, on va rater quelque chose ou on ne va pas faire notre job. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui vient de temps en temps me voir et toujours sur son smartphone. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il fait, non, c'est urgent, je dois absolument faire ça. Je dois absolument faire ci pour mon patron, pour ma truc, pour mon truc. Et quand je rentre là-dedans, je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire exactement ? J'essaie d'analyser. C'était absolument pas urgent. On a l'impression qu'il faut répondre vite, qu'il faut répondre vite à son patron, qu'il faut répondre vite à son supérieur, répondre vite à son prof, répondre vite à son collègue, répondre vite à, etc. On a l'impression qu'il faut répondre tout le temps vite. Et en fait, si on se rend compte, l'urgence, finalement, nous empêche de vivre le temps présent. À force de réagir à plein de choses qui nous tombent dessus, on n'arrive pas à vivre le temps présent. J'ai eu une réunion il y a un an, avec les responsables d'une grande compagnie d'assurance française. Une boîte qui fait 22 milliards de chiffre d'affaires. Un petit truc. On a tous été à l'Echem Bassar, on a mangé kasher à la Madrine. Et donc, ils étaient en visite en Israël. Et il y avait tout le monde sauf le PDG. Et donc les gens autour de la table disent, voilà, donc il y avait les responsables digital, etc. Ils disent, oui, regardez, on a un PDG exceptionnel. Il connaît toute l'histoire grecque, l'histoire romaine. Il est passionnant. Les résultats de l'entreprise explosent. Mais on a un problème. C'est qu'il n'a pas de smartphone. Et moi, je leur dis un truc. Ils ne s'attendaient pas du tout. Je leur dis, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il n'a pas de smartphone qu'il est ce patron exceptionnel dont vous parlez ? Là, ils se sont tous regardés. Ils n'attendaient pas du tout que ça vienne de moi. Parce que pour moi, ils pensent que je suis le geek qui va dire qu'il faut utiliser tous les derniers appareils, n'importe quoi, etc. Et ils se regardent tous et ils disent, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Et on a commencé à parler de ce sujet, le sujet dont je vous parle maintenant, et effectivement du problème de l'addiction et du problème effectivement de pour pouvoir lire un pavé de 300-400 pages, je veux dire, j'ai un fils de 15 ans, d'accord, aujourd'hui les jeunes ne lisent pas de livres, j'ai un fils de 15 ans qui lit 400 pages par jour, un livre, un roman par jour, quand il n'a pas la yeshiva. D'accord ? 400 pages. Pourquoi ? Il n'a absolument aucune interruption dans son cerveau. Il n'a pas de téléphone, il n'a pas de smartphone, il n'a pas d'ordinateur, il n'a rien. Il arrive, je le vois se concentrer, il a les sœurs qui sont en train de se taper dessus devant lui, il a tout le monde, c'est là, c'est le balagan, comme on dit, et il a tout le monde autour, et il est là, il est concentré dans son bouquin. Rien. On arrive à faire ça, nous ? Moi, quand j'arrive une page, des fois, il faut que je la relise 10 fois. Il faut la relire 10 fois. On a la tête qui... Moi, quand je vois même du papier, je vois clignoter comme si c'était un écran. Pourquoi ? Parce qu'on a eu effectivement le cerveau brûlé par ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est en permanence dans un sujet de « je zappe, je prends, je zappe, je passe à autre chose, je zappe, je passe à autre chose ». Et au final, on est expert de rien. Tous les sujets dont je suis expert, sur lesquels je conseille des gens, sont des sujets que je n'ai absolument pas étudiés sur Internet, sont des sujets que j'ai étudiés dans des livres, en étant déconnecté pendant des fois une semaine, pendant 2 semaines, je coupe mon mail, je dis voilà, je mets un message de répondeur, et je dis je ne suis pas là. Et pendant ce temps-là, j'étudie un sujet. Je ressors de ça, je peux vous parler de big data, je peux vous parler d'intelligence artificielle, je peux vous parler de plein d'autres sujets, je ne vais pas dire physique quantique parce que je suis dessus, mais de plein de sujets, justement, uniquement parce qu'effectivement, on a réussi à se concentrer dans les différentes choses. Le monde aujourd'hui, on nous met en permanence dans une situation d'urgence. Mais finalement, qui a des urgences ? Ce sont les médecins, ce sont les traders boursiers qui ont besoin de vendre, acheter, etc. Et encore, même eux, la nuit, quand ils dorment, bah, il ne se passe rien. Bon, les bourses sont fermées, on va dire. C'est pour ça. Au final, il y a très, très peu de gens qui ont besoin d'avoir une urgence, qui ont besoin d'être alertés d'urgence. Alerté d'urgence, comme je l'ai expliqué, ça veut dire avoir une information dont vous avez besoin maintenant obligatoirement. Ça ne veut pas dire, non mais il faut quand même que je sache quels sont les résultats des législatives d'hier. D'accord ? C'est important. Ok. Ouais, il a cartonné. Ok, vous avez les résultats législatifs, mais est-ce que vous avez besoin de les savoir à 20h précises hier soir, à 5h du matin ce matin, c'est quand vous vous réveillez avec votre écran ? Ou dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours. Non, vous pouvez attendre. Mais on va vous mettre une pression, de la même manière que le résultat du match de foot, le résultat de ces choses-là, on va vous mettre une pression pour, effectivement, faire dire, ok, il faut que vous soyez au courant, c'est à 20h, le contrat à rebours, et il se passe ci, il se passe ça. Bon, je ne veux pas dire, les cas d'élection présidentielle, même moi, à 20h, j'étais pour savoir qui était le président. Mais pardon ?
Votre ami a gagné.
Oui, mon entraîneur a gagné. Mais en tout cas, la plupart des informations qu'on a ne sont pas urgentes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, en ayant pris conscience de ça, l'idée, c'est de juste calmer l'ensemble de nos activités qu'on peut avoir sur Internet. Calmer tout. Quand on est en train de faire la queue au supermarché, on n'est pas obligé de sortir son téléphone parce qu'on s'ennuie. D'accord ? On peut réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire ce soir, qu'est-ce qu'on va faire demain, quel est le mari que je vais choisir, quels sont ses critères, quelles sont les études que je vais faire, etc., etc. On peut se mettre à réfléchir. Quand on est au petit coin, quand on est... Alors, vous savez, la plupart des téléphones sont waterproof dans les prochains mois, années, je prends le prochain iPhone, etc. Moi, j'ai déjà vu les usines, j'ai déjà vu à quoi ça ressemble. Les puces, aujourd'hui, on peut faire de n'importe quel device, 100%, vous mettez dans l'eau, vous allez dans la piscine avec, ça tient, d'accord ? Donc, vous l'aurez tout le temps, on l'aura tout le temps, sous la douche, pour être là, en train de consulter, encore des choses, etc. Mais en arrivant à ça, finalement, on n'arrive plus à avoir ce qu'on appelle la menuchat nefesh. Moi, si on me demandait, quelle est la qualité, quel est l'atout que tu devrais avoir, un peu comme la lampe d'Aladin, ok ? Vous avez la lampe d'Aladin, on vous dit, fais un vœu. Est-ce que tu veux la sagesse, tu veux la richesse, tu veux... La seule chose que je demanderais, c'est la menuchat nefesh. Menuchat nefesh, c'est-à-dire être l'apaisement d'esprit. Ne pas en permanence essayer de sauter sur un sujet. Ne pas en permanence, pendant ma tefila, pendant mon étude, d'aller penser à un contrat sur lequel je suis en train de travailler ou en train de penser à un événement sur lequel, si, etc., etc. Pourquoi ? Parce que quand on pense comme ça, quand on va vite, effectivement, finalement, on fait soit les choses mal, et soit, effectivement, on ne réfléchit pas assez sur les différents sujets. J'ai conseillé et je conseille des milliardaires Milliardaire, c'est à partir de 5 milliards, ok? Donc vraiment des gens très, 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 très riches. Et quand je vois la fortune qu'ils ont faite, ils les ont faites sur du temps. Et je vais prendre quelqu'un comme Xavier Niel, qui lui, en fait, consulte ses mails en permanence, sur son iPhone, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une patience, une persévérance. Il va un jour, je me rappelle, j'étais assis à côté de lui, à côté de Xavier Niel, et il était en train de répondre à ses mails. Moi, j'étais assis à côté de lui. Et à un moment, il reçoit un mail, on lui envoie les plans d'une salle de fête. Je fais, ok, bon, il va la regarder deux secondes, il ouvre le fichier, etc. Il a passé 40 minutes dedans. C'était la salle dont il devait annoncer une Freebox ou je ne sais plus quoi. Et il a passé 40 minutes dessus. Je fais, c'est pas possible. Moi, j'aurais passé quoi, 3 minutes. Je regardais, ok, ça va, c'est bon, on ferme, on y va. Il a passé des détails, il a réglé les détails, il a parlé là, il a mesuré, il a calculé, il était en train de calculer, faire des calculs, etc. Sur des petits détails. Et aujourd'hui, on a perdu, notre génération a 100% perdu ce concept d'aller se creuser la tête et de rentrer, de fouiner en permanence pour arriver à creuser, à sortir des informations. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a en permanence autre chose à faire. On a en permanence des alertes par-ci, des alertes par-là et des choses qui vont nous embêter. Pourquoi c'est important d'avoir effectivement donc ce temps ? Comme j'ai expliqué, ça nous permet de prendre des bonnes décisions. Dans notre vie, finalement, on a peu de décisions à prendre. On a peu de décisions. On a besoin de savoir, effectivement, quelle université étudier. On va devoir savoir avec qui se marier, où habiter, où mettre ses enfants à l'école. On a peu de grandes décisions à prendre. D'accord ? Et ces décisions-là, finalement, on a besoin de les prendre avec de l'apaisement d'esprit. On a besoin de les prendre en posant les cartes sur la table de n'importe quoi, de tout ce qu'on peut avoir autour de nous, et en réfléchissant, en essayant d'analyser notre vie. Ça, c'est la première chose. On a effectivement le fait de devoir prendre des décisions qui sont les décisions de notre vie. La deuxième chose, c'est que nous, on est censé faire des mitzvot. D'accord ? Donc nous, on a les juifs, on a des commandements. Des commandements qui concernent n'importe quel, comme j'ai expliqué, n'importe quel pan de notre vie. D'accord ? Et pour arriver à choisir le bien ou le mal, d'accord ? Je résume, j'utilise ces termes, mais évidemment, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est bon d'après la Torah et ce qui est mauvais, on a besoin effectivement d'analyser des situations. On a besoin en permanence d'être réactif. Il y a, je crois que c'est le Ramchal qui dit comme ça, voilà. Il dit « Leolam yarbe adam bishtika velo yedaber ela obedavar chokma obedvarim sheserech lahem lechaye gufo. » Vous comprenez tous l'hébreu ? Oui ? Non ? Tout le monde parle hébreu ici ? Pas trop. Pas trop. Ok, alors je traduis. Pas de problème. Non, pas de problème. C'est dans le message. Non, c'est le Rambam. C'est le Rambam dans. Non, c'est pas ça que je vais vous dire. Non, c'est le Rambam. C'est pas celui-là que je vais vous dire. Je vais vous dire autre chose. C'est le Aoler. Le Rambam dit ça dans Messiah Shesharim, Perek Bet. Aoler beolamo blid bonenut im tovadar koora ineu ke suma aoler al sepatana hashar sakana tovada yatsuma verato krova meatsalato. Celui qui se promène dans le monde sans introspection pour savoir si son derrière, sa manière de vivre, est bonne ou mauvaise, et comme un aveugle qui se balade au bord d'un fleuve, dont le danger est assuré et son mal plus proche que son sauvetage. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous faites les choses sans réfléchir, vous allez faire des grosses bourdes. Vous allez faire des grosses bêtises. Des grosses bêtises, effectivement, dans votre vie personnelle, et effectivement aussi dans les mitzvot. Le sujet, finalement, est exactement le même, d'accord ? Comme je l'ai expliqué, le judaïsme est là pour nous donner une vie qui est raffinée et qui nous permet d'améliorer l'ensemble des composants de notre vie. Mais si vous n'êtes pas en permanence dans un système où vous allez réfléchir au prochain mot que vous allez sortir de votre bouche, à la prochaine tenue que vous allez mettre en vous habillant le matin, ou à la prochaine personne avec qui que vous allez rencontrer, etc., etc., à la fin, au final, vous allez faire les choses de manière complètement, de la même manière qu'il y a effectivement un modèle éphémère sur Internet, vous allez considérer en fait chaque événement de ma vie comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Si on voit les gens qui ont réussi autour de moi et ma manière de vivre, c'est qu'à chaque fois que je prends une décision, elle est pesée, surpesée et surpesée. Ça ne veut pas dire que je vais prendre des années à la prendre. J'ai demandé la main de ma femme le jour où je l'ai connue. D'accord ? Juste pour vous dire un peu le... Voilà. Hein? Donc, juste pour vous dire. Donc, mais d'un autre manière, on a en permanence effectivement besoin de rentrer dans une méthode où on va faire attention à ce qu'on va faire, faire attention à ce qu'on va dire. Or, les gens me disent, mais comment tu fais pour avoir une réputation comme celle que tu as aujourd'hui ? Ils me demandent, c'est quoi ton secret ? Je dis, pendant toute ma vie, j'ai fait attention à ne pas faire d'erreur. Toute ma vie. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous arrivez en entretien d'embauche. Et on va vous dire, vous avez fait l'université de Natania. Et là, on va commencer à vous poser des questions sur certaines matières que vous aurez apprises. Et là, vous savez, soit que vous avez triché, personne ne triche peut-être ici, soit que vous avez triché, soit qu'effectivement, vous n'avez pas participé au cours, et vous allez faire semblant de rien. D'accord ? Au fur et à mesure, les choses, vous allez avoir un job, on va vous faire, il y a un sujet, un issur Torah qui s'appelle le Gnevat Da'at, vous avez volé l'esprit de la personne qui est en face, et vous allez ensuite avoir un job qui est effectivement se base sur des compétences que vous n'avez absolument pas. Quand vous arrivez dans votre vie à réfléchir en permanence à faire le bien et à faire les bons choix, au moment où vous allez arriver en entretien d'embauche, vous n'allez pas faire une tfila pour que vous soyez embauché. Vous n'allez pas faire cette tfila-là. Vous allez faire une tfila pour que vous soyez la personne la plus honnête qui soit devant votre employeur. C'est ça. Si vous arrivez devant un client, vous allez faire une tfila pour que le client, vous lui vendiez le produit auquel il s'attend, au bon prix, avec les bonnes fonctionnalités, etc. D'accord ? Toutes ces choses-là sont des choses qui sont finalement, qui paraissent, on va dire, c'est de l'éthique, c'est normal de faire ce genre de choses, etc., mais qui sont complètement perdues aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a des jeunes, j'espère pas ici, qui vont bosser dans les boîtes de Forex, est-ce qu'ils ont réfléchi à ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils ont réfléchi au fait que, un, leur CV maintenant est pourri et que n'importe quelle boîte honnête n'ont plus envie de recruter ces gens-là ? Est-ce qu'ils ont réfléchi qu'ils sont en train de voler ? Est-ce qu'ils ont réfléchi ça ? Non ! Ouais, il faut faire business, allez, je me prends le premier job qui arrive. Non, mais réfléchis ! Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Réfléchis à ce que tu es en train de construire. Réfléchis à où est-ce que tu es en train d'aller. Ah, il n'y a que ça, il n'y a que ça finalement aujourd'hui, il n'y a que ça. Oui, ça c'est la solution. Facile. Vous arrivez, on vous recrute et vous gagnez beaucoup d'argent. Super. Non, mais vous gâchez votre vie. On a des cas importants de gens dont la famille, soit des gens qui ont travaillé dans le forex, soit des gens qui effectivement ont du mal à trouver un mari, ont du mal à trouver une femme, ont du mal à marier leurs enfants, ont du mal à plein de choses aujourd'hui. Effectivement, on a commencé à se lancer dans des, on s'est lancé dans des choses sans réfléchir et à ce moment-là, effectivement, on va le regretter après. Et c'est ça en fait le message du Ramchal ici, c'est il dit, si on est dans la vie, on est en permanence en train de prendre des décisions les unes après les autres sans réfléchir concrètement à, ok, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les bonnes choses sur le long terme à prendre. À partir de ce moment-là, on va prendre des mauvaises décisions, parce que les mauvaises décisions sont tellement simples, c'est celles qui nous attirent le plus. La même manière, c'était le Rambam dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est le Olam Yerbe Adam Beshtika, Velo Daber Ela, Obedavar Chochma, Obedvarim, Shesar Laem, Lechaye Gufo. Amulo Rav, Amual Rav, Talmid, Rabbeinu Akadosh, Shelosar Shicha Betela Kol Yamav, Veze Ishichat Rov Kol Adam. Le Rambam il dit, un homme doit faire en sorte à se taire. Soit se taire, soit ne parler que des choses de sagesse ou de choses dont il a besoin pour sa vie personnelle. Sa vie personnelle, c'est vous allez chez l'épicier, où est le paquet de pâtes, vous allez l'acheter, ok ? Vous allez chez le médecin, vous dites ce que vous avez, etc. Et sinon, donc effectivement, on se tait. On n'a pas besoin de parler pour rien, on n'a pas besoin d'aller poster sur Facebook des choses qui ne veulent rien dire, juste pour dire qu'on est là, pour dire qu'on vit encore, pour dire aux copains, regardez comment je suis rigolo. D'accord ? Je peux parler à moi-même hein, quand je dis ça. Je ne suis plus sur Facebook depuis 2012. J'avais 4993 amis. Et en 2012, c'était exceptionnel. Mais on est là en permanence à vouloir poster, à vouloir participer, à vouloir faire des choses. Et au final, on ne pèse plus nos mots. Au début, on ne pèse plus nos mots, donc on va dire des bêtises. Et après, on va même dire des bêtises sur les autres. On va commencer à aller critiquer les gens. On va commencer à critiquer les gens autour de nous. On va critiquer les hommes politiques. critiquer les hommes d'affaires, critiquer les entrepreneurs, critiquer les autres étudiants, critiquer ci, critiquer ça, etc. D'accord ? On parle des lois du Lashon Hara dans le judaïsme, d'accord ? C'est sont les halakhot les plus complexes, celles qu'on peut enfreindre du matin au soir. Il faut savoir que sur Facebook, si on poste de l'information sur Facebook et on dit du mal d'une personne, on enfreint les halakhot du Lashon Hara. On a fait enfreindre aux gens qui nous ont lu une mitzvah de la Torah aussi, puisqu'en fait le Lashon Hara c'est interdit de parler et interdit d'écouter. On a fait ça en public, c'est encore plus grave, c'est un degré encore plus grave. Et on a fait ça très souvent, tout le temps, devant aussi des non-juifs, d'accord ? Et à ce moment-là, il y a un problème de Chilul Hashem. Il est interdit de faire du Lashon Hara sur le moindre juif vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, on n'en a rien à faire. On va parler, on va voir une personnalité, on va dire quel profil, quel ci, etc. On va commencer à se lancer et à déballer à nos mots. Le Rambam dit, on doit se taire. On doit faire en sorte à se taire. La majorité de notre vie, on se tait. Et on réfléchit, on analyse le monde, on regarde, on écoute, on essaye de comprendre. Et de temps en temps, on a vraiment quelque chose à dire. Et on dit, ouais, super, je vais amener une information à mes amis, je vais faire quelque chose d'intéressant. À ce moment-là, bah, effectivement, on peut le dire. Mais on réfléchit avant. On a, bah, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais dans les sociétés de recrutement, il y a des logiciels où on tape le nom d'une personne, ça va aller rechercher tous ses profils dans les réseaux sociaux, ça va aller chercher dans les archives, vous avez archive.org, vous pouvez voir toutes les archives des sites d'il y a 20 ans, d'accord ? Vous pouvez aller voir web.archive.org. Vous pouvez voir, on va aller analyser tout ce que cette personne a fait dans sa vie pour aller voir si effectivement cette personne est bien ou pas. Et là, on va ressortir une photo super compromettante. On va ressortir une information qu'il a citée. Vous l'avez vu là pour les hommes politiques pendant les élections. Sur chacun, la plupart des gens, à part les nouveaux qui sont sortis de nulle part de En Marche, mais la plupart, on leur a retrouvé un passé, mais avec des tonnes de trucs. Tout est en ligne. Donc si vous êtes là en disant « Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Je suis jeune, je m'éclate, je me mets mon truc en boîte de nuit où je suis là sous l'art avec un beurre, le truc affalé sur le trottoir, etc. » Et je me dis « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Un jour, ce sera votre employeur qui va le voir. Ou ça sera le mari de votre future femme. Le père de votre future femme. Pardon, c'est vous le mari. C'est l'heure, je me lève un peu trop tôt. Ça sera le père de votre future femme. Bon, qui voudra avoir un autre mari, là j'arrive à ça, je me suis rattrapé, mais ça va le perdre, le deuxième, etc., etc. Et là vous allez dire, ah, un jour je parlais avec un Rav, Ravi Shurun, qui me disait, je lui disais, qu'est-ce que tu conseilles aux adolescents? Il a dit, un adolescent ça fait des bêtises, la seule chose que je conseille, c'est de ne pas faire une bêtise qui ne peut pas rattraper. D'accord? Et ça c'est le plus important, c'est... Vous faites quelque chose maintenant, faites attention que ça ne va pas vous poursuivre toute votre vie. Et pour ça, il faut réfléchir tout le temps. Il faut être sur ses gardes. Il faut vraiment être sur ses gardes. Donc, je vais finir bientôt. Je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, il est 8h50. Combien de temps encore ? Quoi ? J'ai encore 2 heures ? Non, je plaisante.
Je
ne
sais pas qu'on ferme à 10h.
Bah vous me dites. Bon, on va essayer de. C'est là, après on va échanger ensemble. On a un concept qui est plus qu'un concept, qui est le cœur du judaïsme. D'accord ? Oui ?
Oui.
Ouais, on va commencer là dans quelques minutes.
D'accord.
Un concept qui est le cœur du judaïsme, qui est le concept de la Emouna. Pas un concept, d'accord ? Le premier des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. En quoi c'est un commandement ? Je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte.
Prendre conscience qu'il est là.
Prendre conscience qu'Hashem est avec nous. D'accord ? Qu'Hashem nous aide. Qu'Hashem guide nos pas. J'ai vu un magnifique commentaire du Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui disait qu'à n'importe quelle seconde de notre vie, Hachem prépare la seconde d'après. C'est-à-dire qu'en fonction de la mentalité dans laquelle on est, en fonction du parcours qu'on doit avoir, on va nous créer un programme personnalisé, chacun d'entre nous. On est tous différents, on a tous un programme qui va être complètement différent. Et à chaque seconde, Hachem va nous envoyer soit une épreuve, soit rien, un bon bol d'air, quelque chose qui est personnalisé. Ce concept de Emouna, c'est un concept qui a été perdu. On dit « Baruch Hashem » quand il nous arrive quelque chose de bien. D'accord ? On nous a dit « Merci mon Dieu » quand on a son diplôme, ou quand on a son permis de conduire, ou quand on a son mariage. Ok ? On va effectivement voir dans le bien, on va voir en permanence la main, on va dire, certains vont voir la main d'Hachem en disant « Merci, merci mon Dieu, j'ai eu du bien. » Le judaïsme, c'est pas ça. Le concept de bitachon, de confiance en Dieu, c'est pas de penser qu'Hachem va faire ce que vous voulez que faire dans votre vie. C'est que tout ce qui va vous arriver dans votre vie, le bien et le mal, est pour votre bien. C'est ça le concept de bitachon. C'est-à-dire que quand vous perdez un client dans votre entreprise, vous faites un grand sourire, vous dites « Ah, Baruch Hashem !» Je leur dis « Mais c'est dingue. C'est dingue, tu as perdu des revenus, tu as parlé à ça, etc. » Non, à ce moment-là, Hachem a voulu que tu changes de statut. Et je vais vous dire, c'est expérience personnelle, mais bon, je ne peux pas parler d'autre chose, j'ai vécu que ma vie. À n'importe quel moment où il s'est passé des mauvaises choses, quelques mois après, quelques années après, je me suis rendu compte à quel point la mauvaise chose s'est bien transformée. Mais inimaginable à quel point. Et je parle avec des gens autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont des fois très déprimés, qui voient le mal partout, le gens loin, etc. Je dis, viens, on va s'asseoir ensemble, tu vas me raconter ta vie. Je raconte la vie, il me raconte tous ses malheurs. Tous ses malheurs, et tous ses problèmes, et tous ses trucs, etc. J'arrive, je fais, oui, mais regarde, si tu n'avais pas ça, tu n'aurais pas rencontré ta femme. Et tu me dis que tu as le meilleur couple du monde. Ah ! Au fur et à mesure, quand on analyse la vie et qu'on voit effectivement les différents challenges qu'on a pu avoir, les différentes mauvaises choses, qui sont mauvaises à première vue, on se rend compte effectivement que les choses finalement s'arrangent. Et que effectivement la vie se réordonne d'une certaine manière qui effectivement est pour le bien. Quel est le bien ? C'est un concept à part, on ne va pas parler de ce sujet des Mouna ce soir. Mais pourquoi je vais vous en parler ? Le fait d'être en permanence avec un téléphone dans la main, un smartphone, d'accord ? Donc je ne parle pas d'Internet, d'accord ? Je ne parle pas d'avoir sur un ordinateur, vous avez accès à Internet de temps en temps, etc. Le fait d'avoir un téléphone dans la main nous fait perdre toute confiance à la fois en Dieu et en nous-mêmes. Je vais vous imaginer ça. Il y a 50 ans, quand la maman était à la maison et que le mari et les enfants sortaient le matin, aller à l'école et aller au travail, la maman était à la maison, elle n'avait aucun moyen de joindre ses enfants jusqu'au soir. Et les routes n'étaient pas en plus les meilleures, etc., etc. Il n'y avait aucun moyen. Toute la journée, elle se reposait sur sa confiance en Dieu en disant « Dieu merci, ça ira bien, ça se passe bien, protège-les, etc. » À partir du moment où effectivement il y a eu le téléphone, ma mère m'envoie « Bien arrivé ?» Bien arrivé, là je vais devoir l'avertir ce soir que je suis bien arrivé, quand je rentre à la maison. Même ma mère, 39 ans quand même, ça se finit, je finis jamais.
Bah au prochain,
elle m'a investi. Mais on rentre dans un modèle où effectivement, on n'a plus la confiance que les choses se passent bien, on va se dire, si j'ai pas de nouvelles, c'est qu'il y a un problème, pourquoi il m'a pas appelé? Alors qu'avant, c'est s'il n'y a pas de nouvelles, bonne nouvelle, vraiment c'était ça le cas, si on m'appelle pas, c'est que tout se passe bien. Et donc on perd en fait, par le fait de communiquer en permanence, en fait le fait de dire « ça va bien se passer ». Moi par exemple, je suis sorti, donc depuis que j'ai enlevé mon smartphone, je vais voyager à l'étranger. Et donc j'ai plus de smartphone dans la rue. Je dis « avant j'avais Uber, j'avais des cartes, je pouvais trouver resto cachère, avec les apps, il y avait plein de trucs ». Et là je me dis « j'ai rien, j'ai pas le choix, je n'ai plus mon smartphone, on va faire comme avant ». Tac, je lève la main, il y a un taxi qui passe. Je vais trouver un resto cachère, j'appelle un copain, il me dit tiens, il y a un resto juste là, etc. etc. Et au fur et à mesure, finalement, la chose s'arrange. Et au final, je me suis débrouillé. Effectivement, j'ai perdu peut-être 4 minutes parce que j'aurais été plus vite en faisant une app, en utilisant des apps, mais j'ai gagné 5 heures par jour. Vous savez combien de fois on touche son smartphone par jour, en moyenne? En nombre de fois.
7 heures.
Non, nombre de fois, nombre de fois.
230.
Combien ? 1500, c'est le nombre de fois qu'on le touche, effectivement. Et le nombre de fois qu'on l'allume, c'est effectivement, si j'ai posé cette question comme ça, entre 1500 et 3000 fois, on le touche par jour. Et c'est, on l'allume entre 110 et 300 fois par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On l'allume entre 110 et 300 fois. Toutes les études montrent qu'il faut 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. Quand vous rentrez dans un sujet, il faut 10 minutes pour se concentrer. Si vous consultez votre téléphone donc toutes les 10-15 minutes, ce qui veut dire que toutes les 10-15 minutes, au moment où vous êtes concentré sur votre sujet, vous allez vous déconcentrer et passer à autre chose, voir un message, et repasser dans votre vie, essayer de vous replonger. Vous allez remettre 10 minutes à vous replonger dedans. Il y a une étude qui a été faite par la société, je crois que c'est Kaspersky, qui est une boîte d'antivirus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un smartphone, ils ont pris une salle et ils ont pris 4 groupes de gens. Un genre avec un smartphone posé sur la table, un autre avec un smartphone dans la veste de la personne dans la même salle, et un autre avec un smartphone à l'extérieur et un autre à l'extérieur éteint. Plus on avance, plus la personne arrive à se concentrer. C'est-à-dire que même quand le smartphone est dans la veste à côté, on reste connecté à ça. Vous avez sur quelque chose qui s'appelle Digital Amnesia, vous avez pas mal de sujets comme ça qui traînent sur Internet. Vous pouvez voir effectivement l'ensemble des études qui sont faites et les gens sont tous en train de devenir fous. On n'arrive plus à se concentrer. Je reviens au sujet de la confiance en Dieu. Donc au final, à partir d'un certain moment, étant donné qu'on va googler à chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose, on va utiliser sa calculatrice à partir d'un moment où on a besoin de faire un calcul, finalement, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que le smartphone est smart, mais nous, on n'est plus smart du tout. On ne sait plus rien faire. Et ça, effectivement, ça nous change complètement notre perception de la vie. Le fait de se dire, moi, je vais passer une journée et tout va bien se passer. Je vais réussir à avancer, je vais réussir à étudier ce que j'avais dit. Je vais enfin finir mon livre. Je vais enfin en parler avec mon ami d'un sujet important. Je vais enfin faire ci, etc. Et effectivement, comme j'ai expliqué, le fait d'être tout le temps connecté nous empêche, effectivement, en étant entrecoupé de tout, d'avoir ce lien fort à la fois avec son entourage et fort avec Hachem. Voilà, je vais finir là. On a le dernier point, c'est celui-là. Il y a un Rambam qui est super important, qui parle de la vie sociale. En gros, je vous le dis, c'est derer briato shel adam. Je vais vous le dire en français. La manière dont la nature de l'homme est d'être attiré par son entourage, par sa société, par son pays, et donc par son entourage et par les gens de son pays. C'est pour cela qu'il faut être en permanence entouré de chachamim, de tzadikim, et s'éloigner des rechaim. Chachamim tzadikim, quand on l'expliquait, c'est pas rabbin avec un grande barbe, d'accord, ce terme-là, sage, quelqu'un de sage, n'importe qui d'entre vous peut être très sage, d'accord, en prenant effectivement tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, de la clarté d'esprit, apprendre de la vie, etc., etc. Être entouré de gens qui prennent de bonnes décisions. Et le Rambam continue et dit, et si vous ne trouvez pas de gens bien autour de vous, allez vivre dans une forêt, allez vivre tout seul. Catégorique. Aujourd'hui, on est sur Facebook, on est sur des réseaux sociaux, où notre entourage, c'est le monde entier. C'est devenu ça. À l'époque du Rambam, c'était il y a 1000 ans, presque exactement 1000 ans. Vous aviez, quand il parlait, lui, à l'époque, il parlait des gens de son village, d'accord, de sa ville. Voilà, ça allait pas loin, en fait, l'entourage. Aujourd'hui, en fait, dans les réseaux sociaux, on se retrouve entouré de tout le monde, du monde entier. Et donc là, à un moment, on doit se dire, si moi, je suis entouré de tous ces gens-là, le Rambam, il dit, si vous êtes entouré de tous ces gens-là, vous allez être attiré par leur mode de vie. Attiré par ça. Et vous allez plonger là-dedans. Et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc nous, on est là pour se dire, allez, de temps en temps, je coupe. Je mets à part l'ensemble de ces choses-là. Je ne dis pas qu'il faut quitter Facebook, même si je l'ai fait et je suis bien content de l'avoir fait. Une des meilleures décisions de ma vie. Mais ce que je dis, c'est qu'à partir d'un certain moment, il faut faire en sorte à éviter de se faire influencer. Je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont entendu raconter cette histoire. Quand j'avais 17, 18 ans, j'étais au lycée et un jour, un des professeurs nous dit voilà, donc en, aux 18 ans, on ne savait pas quelles études faire, et, comme tout le monde. Et là, un professeur nous dit voilà, on a une surprise pour vous. Cet après-midi, on a invité des chefs d'entreprise, pas des chefs d'entreprise, on a invité des professionnels de plusieurs métiers. Ce sont des parents d'élèves. Il y a un psychologue, il y a un pompier, il y a ci, il y a ça, il y a ça, et vous allez pouvoir leur parler, d'accord ? Pour voir effectivement si vous avez une affinité avec certains, de leur, certains des métiers. C'était une super idée. D'ailleurs, je ne sais pas s'il ne faut pas faire ça aussi à l'université. C'est une super idée. C'est vraiment quelque chose qui était magique. Et j'ai trouvé ça super quand on me dit la chose. Et là, j'ai un ami à côté qui fait « Monsieur, monsieur, on est obligé de rester ?» Alors le prof, un peu déçu, il dit « Vous savez, nous on fait ça pour vous, vous savez, nous on a déjà… » Notre vie est déjà passée, entre guillemets, mais voilà, on a fait ça pour vous, faites ce que vous voulez. Et donc, c'était un de mes meilleurs amis, c'est un de mes meilleurs amis, il fait partie de la bande, on faisait partie de la même bande. Et donc, il a décidé de partir, et on a tous suivi, on est tous sortis de l'école, alors qu'il y avait cette réunion, et on est tous sortis, je me rappellerai de chaque seconde de cette journée-là, on a marché la rue, on a été jusqu'au métro, je suis descendu dans le métro, mais un ticket, je rentre dans le métro, les sonneries du métro sonnent, et là je me dis, mais pourquoi je pars ? Pourquoi je pars ? Pourquoi je partais ? J'ai suivi le troupeau.
Le troupeau.
Ok ? J'ai suivi le troupeau. Pourquoi je pars ? Et là, j'ai un ange qui m'a tiré. Je vais vous dire pourquoi c'est un ange, parce que vous allez voir ce qui, le bien qui est sorti de ça. Je suis remonté, et donc mes amis me font, par les vitres et tout, je me rappelle, je vois comme ça hurler. Voilà, je suis remonté. Ce moment-là, j'ai été voir une journaliste, puisque je voulais être journaliste informatique à l'époque. C'était Rutel Krief, je ne sais pas si vous connaissez. Un peu, voilà. C'était plus jeune à l'époque. Et j'ai rencontré ce jour-là quelqu'un qui allait devenir mon associé, mon mentor. C'est un chef d'entreprise qui venait de vendre sa société pour une fortune, société dans le logiciel de comptabilité. Non, ça s'appelle Jean Guetta. Et qui m'a montré, en fait, c'est quelqu'un qui m'a appris deux choses. Un qui m'a dit, Jérémy, avec le parcours que tu as, l'expérience que tu as, tu n'as pas besoin de faire d'études. C'était un centralien qui me dit ça. Un an après, je donnais des cours à Central, donc c'était content. Et deux, c'est quelqu'un qui était très pratiquant et qui m'a montré, en fait, qu'on pouvait être complètement pratiquant, sans aucun complexe, dans le monde du travail en France. En France ou dans le monde entier. En France, c'est le plus dur. Un des endroits les plus durs, c'est en France. Aucun complexe. Et c'est la personne qui m'a finalement changé ma vie. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai ce look, si aujourd'hui je suis comme ça, et tout mon parcours a eu lieu parce que j'ai fait cette rencontre-là. Et donc, le sujet, pourquoi je vous parle de ça, c'est donc l'entourage. Il faut absolument se détacher de son entourage. Il faut absolument se détacher de son entourage. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des amis. Ça ne veut pas dire ne pas être avec ses amis. Ça ne veut pas dire pas passer du bon moment avec ses amis. Mais ça veut dire que pour ses idées, que pour choisir son mari ou sa femme, je reviens souvent dessus, parce que pour moi, c'est la prochaine chose que vous avez à faire, pour choisir ça, pour choisir les différentes options qu'on peut avoir dans la vie et les bonnes choses qui peuvent vous arriver, ne demandez pas conseil à vos copines. Ne demandez pas conseil à vos copains. Ce n'est pas là que vous allez trouver la vérité. Ce n'est pas là que vous allez trouver de l'expérience, ce n'est pas là que vous allez trouver de la sagesse. Non, 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 non. Et si quelqu'un vous dit, moi, quand j'ai monté ma première entreprise, j'avais 19 ans. Mais t'es fou, Jérémy, mais qui va te faire confiance ? Mon premier client, c'était Microsoft. Deuxième, Société Générale, France Télécom, etc., etc. Et moi, franchement, j'étais un peu fou à l'époque et je n'écoutais pas du tout les gens autour de moi. C'est vraiment, mais comment t'as pu quitter l'école, t'as pu quitter l'université, etc. Enfin, je ne suis même pas rentré. Mais... j'étais un peu fou, j'étais un peu indépendant comme ça. Effectivement, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis grâce à ça. Grâce au fait que j'ai entendu personne. Ça ne veut pas dire que j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai été bête, j'ai fait des bêtises, j'ai voulu m'éclater, j'ai voulu... Non, j'ai voulu au contraire prendre des bonnes décisions, peser, sans écouter la force de l'autre côté, un contrepoids de l'autre côté qui n'a pas de la sagesse. Moi, aujourd'hui, quand je veux prendre des décisions, j'appelle Gabriel Krief. On en a pris une il n'y a pas longtemps ensemble. J'appelle Rav Weizmann, que vous connaissez, d'Oel Naftali. J'appelle des rabbanim, des gens qui savent se poser, qui savent réfléchir, et on réfléchit ensemble. J'appelle la dernière grande décision que j'ai prise, c'est avec Rav Ben Chetrit. On a passé trois quarts d'heure au téléphone, et à la fin des trois quarts d'heure, on a pris une décision. D'accord ? Très importante, mais que j'aurais absolument pas pu prendre seul, mais on l'a pesé, on l'a sous-pesé. À la fin de la discussion, il n'y avait plus de questions, en fait. On avait filtré. Et donc, c'est ça, en fait, le sujet. Attention à l'entourage. Et donc, sur ces sujets-là, smartphone, Facebook, etc. Si à un moment, moi, quand j'ai enlevé WhatsApp, c'était il y a un an. J'ai arrêté d'utiliser WhatsApp. D'accord ? C'est quand même super utile, WhatsApp. On peut s'envoyer des trucs, etc. Même les plombiers, maintenant, ils nous demandent d'envoyer des trucs par WhatsApp, leurs factures. C'est super pratique. Bon, j'ai dit, quand je le quittais, j'ai eu les gens de mon immeuble. Ils se sont dit, mais comment on va communiquer ensemble maintenant ? Je vais vous moquer de moi, on habite dans le même immeuble. On se croise tous les jours au parking. Vous moquez de moi ? Non, mais quand on a des choses à dire, on a la chaîne WhatsApp de l'immeuble, etc. Je dis, mais vous êtes, mais c'est n'importe quoi. Et donc là, je dis, c'est fermé. Quand j'ai quitté Facebook, il y avait la moitié des gens qui m'ont dit, Jérémy, t'es complètement fou, t'es religieux, tu fais n'importe quoi, etc. Et il y en a d'autres qui ont dit, mais Jérémy, mais comme tu es fort, on aimerait ressembler à ça, on aimerait faire la même chose. Il faut voir sur mon blog, je crois, vous pouvez voir le message que j'avais posté à les hommes, vous avez quelques commentaires, parce que les autres étaient sur Facebook et ils ont disparu. Mais vous avez des commentaires de gens qui disent c'est génial ce que tu fais, etc. Et finalement, la vie d'un homme religieux, d'accord ? Nous on imagine c'est Rabbi Jacob et tout. Non, non, mais c'est pas ça la vie d'un homme religieux. La vie d'un homme religieux, c'est de faire ce que je suis en train de faire. C'est de dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien ? Pour vous dire pour comment j'ai quitté Facebook, un jour on tape à la porte de mon bureau, c'était ma fille de, à l'époque elle devait avoir 7 ans, 8 ans. Papa, je peux te parler ? Et je lui dis, j'ai pas le temps. J'étais en train de répondre à un commentaire Facebook. Et là, elle ferme la porte. Elle me dit, ah pardon papa. Ferme la porte, parce que j'avais le bureau collé à la maison. Pardon papa. Je ferme la porte. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de lui raconter ? C'est débile ce que je viens de lui dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé Rav Ben Chetrit aussi. C'était avec Rav Ben Chetrit que j'avais pris cette décision. On a pesé le pour et le contre. Et j'ai décidé de quitter à ce moment-là. Mais à l'époque-là, j'ai pleuré ce jour-là. D'avoir dit à ma fille de sortir. Vous savez, un enfant, pour qu'un enfant vous dise « Papa, je veux te parler » et « Papa, je veux te confier quelque chose », c'est un travail d'une vie d'arriver à garder ce contact avec ses enfants. Aujourd'hui, la plupart des problèmes d'éducation, c'est qu'il n'y a pas ce contact. Donc, vous avez une fille qui vient et qui vous dit « Je veux te parler de quelque chose » et des fois, c'était des petites choses de rien du tout. « Papa, est-ce que tu pourras m'amener à mon cours de piano ?» ou des trucs comme ça. J'ai envoyé balader parce que j'avais vu Facebook qui n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Voilà. Je vous laisse poser des questions. J'espère que ce que je vous ai dit influencera un petit peu votre vie. Et voilà. Bonne soirée à tous. Regarde, donc la question c'est est-ce qu'il faut se contrôler ou éradiquer le smartphone ou se contrôler ? Je vais vous dire, j'ai essayé le contrôle du smartphone, j'ai jamais réussi. Même mon ordinateur, j'utilise un logiciel qui s'appelle Self-Control, qui permet de, c'est justement pas du self-control du tout, où à un moment en permanence dans ma journée, je dis voilà, maintenant pendant une heure, je ne peux plus me connecter. Et mon ordinateur est bloqué, il ne peut plus se connecter. Ça marche sur Mac, il y a des solutions sur Windows aussi. C'est qu'en fait, au final, le challenge est super fort. Le problème du smartphone, il a un problème à la fois, effectivement, donc ce que j'ai parlé. Il a aussi un problème le fait d'être connecté la nuit. Il y a maintenant plein d'études qui sont en train de sortir sur les problèmes des yeux, les problèmes de la lumière blanche qui est reflétée par le smartphone. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, les dernières versions de Mac, du système d'exploitation de Mac, maintenant devient jaune la nuit. À l'époque aussi, je savais pas que ça s'était passé aussi. Effectivement, pour en sortir, est-ce que ça t'arrête ? Parce qu'effectivement, des gens à l'hôpital du matin au soir à cause de burn-out, à cause de ça. J'ai un ami qui était un des vice-présidents de Microsoft France. Un jour, il disparaît pendant 6 mois. On était en contact tous les jours. Il revient après 6 mois. Je lui dis, mais où tu étais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'a dit que tu étais malade. On m'avait dit qu'il était malade. Il m'a dit, j'ai fait un burn-out. J'étais connecté en permanence. Je me levais toutes les heures la nuit pour lever mes messages, etc., etc. Il m'a dit, j'ai explosé, j'ai passé 6 mois à l'hôpital. 6 mois pour arriver à revenir à l'état normal. Donc voilà, donc moi aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'autre solution que enlever son smartphone. Maintenant, si vous pensez que c'est trop, d'accord, à ce moment-là, vous devez enlever toutes les applications qui vous permettent de communiquer en permanence. Si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est ça? L'avantage de l'ordinateur, c'est on est devant son ordinateur et à ce moment-là, on le quitte et on n'est plus devant. Voilà. Donc, c'est comme ça en tout cas que je fais. Moi, j'ai enlevé le Wi-Fi. J'avais du Wi-Fi chez moi. Le Wi-Fi ne couvre plus chez moi. Il couvre juste mon bureau. Donc, je ne peux même pas prendre mon laptop et aller faire des choses. Si, je prends mon laptop en mode déconnecté et effectivement, je réponds à des mails, je prends des trucs. Vous pouvez pas imaginer l'efficacité que c'est d'être déconnecté. Quand des fois je parle avec des collègues, des gens avec qui je travaille, et je me vois qu'ils commencent à répondre à plein de mails en retard. Le mail que j'ai envoyé il y a 3 semaines, le mail, etc. Enfin, je lui dis, bon, tu viens de prendre l'avion, toi. Il me dit, ouais, dans l'avion, oh là là, j'ai enfin rattrapé tout mon retard. C'est quand même dingue. Le moment où on est déconnecté, on est donc normalement dépourvu de toutes nos fonctions, c'est là où on est le plus efficace. Il faut vous dire que ça marche très très bien. Donc effectivement, si vous pouvez enlever le smartphone, moi, à la sortie de certaines de mes conférences, des jeunes sont venus me donner leur smartphone et je les ai au bureau. Ils sont là. Ils ont donné avec la puce et tout. Hein. Quoi ? Téléphone.
Je me demande. Il est sur la table.
Non, ça c'est un truc. C'est un téléphone comme ça. Non, c'est un pourri, Voda.
La mutation de l'économie de demain, avec moins de smartphones, moins de connexions, moins de choses comme ça. Parce que moi, ma génération, par exemple, j'ai toujours refusé Facebook, etc. Parce que je trouve que c'est l'esclavage complètement inutile et c'est vraiment en fait de vivre. Et que moi, c'était très clair. Mais il y a quand même plein d'espace, de technologie, d'avancée, de la biotech à tout ce que vous pouvez imaginer qui ont besoin de ces outils-là.
Alors, pour la biotech, on n'a pas besoin de Facebook, d'accord ? Moi, je suis sur LinkedIn, je suis un influenceur LinkedIn. On est 1000 au monde, et c'est-à-dire que quand j'écris un truc sur LinkedIn, il y a 100 000 personnes qui voient immédiatement. C'est une pression, je peux vous dire, il faut que je réfléchisse beaucoup. Donc, effectivement, j'utilise LinkedIn pour usage professionnel. J'utilise Twitter de temps en temps, parce que je sais que beaucoup de jeunes me lisent, etc. Et pour soutenir Macron, c'est ça. Mais voilà, c'est-à-dire qu'au final, il faut faire la part des choses. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se déconnecter d'Internet. D'accord ? Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Même si quelqu'un y est arrivé, moi le premier, je pense qu'on serait les plus heureux du monde, mais on ne peut pas. La banque, on est bien plus rapide à faire sur Internet. Parler avec mes clients. Moi, je voyage très, très peu. Les gens pensent que j'investis dans 26 pays. Les gens pensent que je voyage en permanence. Je voyage peut-être 3 fois par an. Et encore. C'est quand il y a des urgences. La plupart des voyages que j'avais cette année, c'était pour donner des conférences de ce genre d'ailleurs. Donc voilà, je veux dire, il faut filtrer. C'est-à-dire que, comme on dit, quand un juif, par exemple, doit manger kasher, ça ne veut pas dire qu'il doit être moine et manger du jus d'orange et ne plus rien manger. Manger kasher, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on mange et des choses qu'on ne mange pas. D'accord ? C'est de séparer les choses, de filtrer les choses. De la même manière, il y a des choses qu'on utilise sur Internet et d'autres qu'on n'utilise pas. Et c'est à nous, en fait, en permanence, de se poser la question, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça me fait avancer dans mon job, dans ma vie, vous savez, moi, plus j'ai eu d'amis sur Facebook, moins j'ai eu d'amis dans la vie réelle. Ils ont tous disparu, les amis avec qui on pouvait passer beaucoup de temps. Il n'y a pas de vie d'amis. Un jour, j'ai eu un ami, on était en 2011, c'était encore les débuts de Facebook. Hein. Il m'envoie un mail, il me dit, Jérémy, c'était un de mes meilleurs amis, on était ensemble tout le temps et tout. Jérémy, nous n'avons plus intérêt à être amis, donc nous ne sommes plus amis. M'envoie un message comme ça. En gros, c'est comme on met unfriend sur Facebook, d'accord ? Parce qu'effectivement, lui et moi, on avait des milliers d'amis. Mais moi, pour moi, c'était mon ami. C'était un des 5 de mes meilleurs amis. Bon, il est revenu il y a un an et demi, 2 ans, il s'est excusé par son manque de maturité, etc. Mais il a quand même osé le faire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on a plein d'amis, on n'a pas d'amis. On a besoin d'un ami, de 2 amis. On n'a pas besoin de plus. On a besoin de 2 personnes avec qui se confier, de 2 personnes avec qui avancer, qui peuvent nous aider, etc., à devenir meilleurs. Mais voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Donc effectivement, moi, je connais toutes les nouvelles technologies. Regardez là, par exemple, ce que j'ai là, j'ai un Kindle. Vous savez ce que c'est le Kindle ?
Pour lire.
Voilà, le Kindle, c'est déconnecté et connecté. C'est de l'asynchrone. C'est-à-dire que j'ai une adresse, il a une adresse mail. Si je veux envoyer un document, un Word que je veux lire, je l'envoie sur une adresse mail. La prochaine fois que je passe à côté d'un Wi-Fi ouvert, il va se synchroniser et je vais pouvoir le lire dessus. Mais il n'y a aucune notification là-dessus. Il n'y a pas de connexion, on ne peut pas se balader. Oh, il y a un browser, mais qui est tout pourri et qu'on ne peut pas utiliser. C'est là-dessus que je lis des livres. Et je lis mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, sans arrêt. Ouais.
Vous avez encore Twitter ?
Ouais.
Pourquoi Twitter et pas Facebook ?
Alors, j'ai encore Twitter. Pourquoi Twitter et pas Facebook ? Alors, j'ai un secret. Les gens pensent que je lis Twitter, mais je ne lis pas Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, je lis uniquement une page. Il y a un genre de, j'ai un truc qui s'appelle Paperly qui en fait me résume tout ce qui s'est dit en fait sur Twitter dans la journée. Paperly, j'étais actionnaire de la boîte à une époque. Et le reste du temps, en fait, je fais que poster. Donc au final, je suis pas là-dedans. Mais vous avez raison, c'est à un moment ou à un autre. Sur Facebook, est-ce que je fais pareil de poster et de passer? Non, parce qu'il y a une interaction sur Facebook. Si je poste un truc et je gère pas les commentaires, ça part en vrille, ça veut rien dire. Il y a aussi un truc. Mais vous avez raison. Je veux dire, à un moment, la Twitter, ça a été une question. Est-ce que je reste ou pas? D'accord. C'est une question. Moi, là, pour l'instant, c'est le sujet et je me limite. J'ai un plugin dans mon navigateur Chrome qui s'appelle Stay Focused Day et qui en fait limite à 3 minutes par jour le temps que je peux passer sur Twitter. Alors des fois, je passe 20 secondes, 15 secondes, 20 secondes. D'ailleurs, je pense que je vais le baisser à 2 minutes. Je pense que même 3 minutes, c'est trop. Et il y a des moyens en fait de se limiter là-dedans. Mais sur Facebook, je pense vraiment que ça n'amenait rien en fait. Je pense vraiment que en fait, je postais, ça partait et voilà, ça n'amenait rien.
Est-ce que tu as des...
Vas-y.
Jamy, est-ce que tu as des solutions de substitution au smartphone pour les services indispensables?
Est-ce que j'ai des solutions de substitution au smartphone pour les services indispensables?
Oui, par exemple, Maps, par exemple, pour la banque, etc. Est-ce qu'il y a...
Son ordinateur? Un ordinateur. Est-ce que j'ai des solutions de substitution? Alors aujourd'hui, apparu ce matin à Vnebrak, Vnebrak Publicité à Vnebrak, ils ont sorti un smartphone qui a que Waze. Sorti ce matin. C'est dans le doute, je me lève le matin, il y a des affiches partout. Il n'y a que Waze, ça vaut 350 shekels, plus 20 shekels par mois, et vous avez uniquement Waze. C'est génial Waze. Franchement, c'est génial. Pardon? Non, l'avantage, c'est qu'il a le trafic.
Oui.
Le GPS,
on n'a pas d'ordinateur sur soi quand on est dans la rue, par exemple. On a besoin de WhatsApp.
Tu es dans la rue, tu as besoin de quoi? Vas-y.
De WhatsApp.
Pourquoi?
Movit, voilà, Movit.
Ah, tu as besoin de Movit.
Comment on fait?
Tu sais qu'on a vécu, on a pris le bus dans notre enfance, adolescence. Non, on n'avait pas Movit. Et franchement, on s'en sortait toujours bien. Je sais pas, vous.
Mais...
Moi, j'ai jamais eu de problème de... Vous avez sur Google Maps, vous avez les plans de bus. En plus, en général, on prend à peu près toujours les mêmes trajets. D'accord? Si de temps en temps, on ne prend pas, ben, à ce moment-là, vous pouvez préparer votre plan le matin et faire votre petit agenda. Et c'est tout. C'est pas Movit. Je connais bien les gens de Movit. C'est des gens super, ils font plein de trucs, mais c'est un business. Donc, ils sont là aussi pour vous retenir, pour tous ces sujets. Ouais.
Ma question va paraître un peu naïf, mais quand on fait un travail sur soi, c'est un peu couper la branche d'un arbre. Mais toi qui fréquentes un peu les personnes qui tirent les ficelles de tout ça, il n'y a pas une. Je sais qu'il y a une course à la consommation et à la vente, mais il n'y a pas une charte d'éthique qui stipule de calmer cette civilisation et pour calmer un peu le jeu à l'échelle planétaire. Enfin,
Donc la question, c'est est-ce qu'il existe une charte d'éthique pour arriver à calmer le jeu?
Oui, ça veut dire.
Bravo. La sagesse juive. On ne peut pas changer le monde. Le monde qui va dans une direction, on ne peut pas aller maintenant se dire « Allez, on va freiner l'ensemble des choses, on va essayer de corriger le monde. » Nous, on doit montrer, en tant que juifs, qu'on arrive à corriger ces différentes choses. Et nous, quand on va gérer des entreprises, on va essayer de faire en sorte à ne pas faire tirer les ficelles de ces choses-là. On va de temps en temps avoir certaines limites, on va se mettre des limites, on va essayer de faire des choses. Moi, je suis cofondateur d'une boîte qui a lancé un jeu. Enfin, je n'ai pas fondé la boîte pour faire ça, mais à un moment, on a lancé ça. C'est un jeu qui s'appelle Song Pop. Vous connaissez Song Pop?
Ouais, c'est quand tu la musique.
Voilà, on écoute de la musique et on a des. C'est du blind test. On écoute une musique, vous avez tout joué, c'est super. Mais, vous devez dire qui est la personne qui chante ou la chanson qui est en cours, etc. On a des gens qui dépensent dessus 5 à 10 000 dollars par mois. pour acheter des crédits, pour acheter des œufs, etc. Ça s'appelle les baleines. On appelle ça les whales dans le monde du jeu. Ça sont des gens qui sont des gens qui sont des retraités, des professeurs d'école, des gens plus basiques. C'est pas des grandes fortunes, c'est pas des etc. Et ils sont là en permanence à aller, comme ils se mettent à Las Vegas devant un jackpot, ils font exactement la même chose sur devant leur smartphone. D'accord ? Et là, effectivement, il y avait la question, bon là, je ne dirige pas la boîte, donc ils ont décidé tout seuls. Mais la question, c'était est-ce qu'on limite ces choses-là ou pas, etc. Mais au final, quand les Facebook, les Google et tout ont besoin d'augmenter leurs revenus, comme j'ai expliqué, ils n'ont que trois choix. Ils ont soit ils augmentent le nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, Facebook, ils ont quasiment le monde entier. D'accord ? Ils essayent d'amener Facebook en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont fabriqué un nouvel avion pour couvrir l'Afrique avec de l'Internet, par du satellite, etc. Pour aller créer des nouveaux marchés et avoir plus d'utilisateurs. Mais aujourd'hui, vous avez des milliards de gens qui sont sur Facebook. À partir d'un certain moment, ça commence à stagner, la croissance ralentit. Donc, augmenter le nombre d'utilisateurs, ça devient difficile. Augmenter le nombre de services, augmenter le temps consommé sur le service. Et là, c'est là où il s'éclate le plus. C'est effectivement, il y a 24 heures dans la journée, on se partage le temps entre Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et effectivement, vous avez des études qui sortent en permanence. Si vous voyez les cours boursiers, vous allez voir le chart. Facebook va être très fier en disant les gens passent chez nous 4 heures, 4 heures et demie, etc. Mais eux, ils sont obligés de faire ça parce que c'est le seul moyen qu'ils augmentent leur, pour lequel ils augmentent leur revenu. Et le troisième chose, c'est de créer des nouveaux produits qui va faire en sorte qu'il y ait d'autres types de revenus. Mais ça, c'est pas intéressant pour notre sujet. Donc, l'économie a besoin de croissance. Une action en bourse chute quand une société ne croit pas. Donc, l'économie fonctionne dans un modèle où il faut de la croissance. Moi, un jour, j'ai un ami qui me disait, qui est patron d'un grand site marchand, un grand site e-commerce, et je ne vais pas dire qui c'est, qui faisait un très gros chiffre d'affaires, en centaines de millions. D'accord ? Et il me dit, on a fait une mauvaise année cette année. Je fais, combien tu as fait ? Il me dit, on a fait 30 millions de plus que l'année dernière. Je fais, l'année dernière, tu étais content, pourquoi tu n'es pas content ? Il fait, non, on n'a pas. La croissance n'est pas au rendez-vous. Je fais, et là, on se rend compte effectivement de la folie des choses. C'est qu'on est dans un monde où il faut obligatoirement croître pour être considéré une société à succès. Et c'est comme ça que le monde est fait en permanence. Alors qu'au final, tu es bien à un certain moment, tu peux continuer. On devrait rester normalement dans le monde normal, on devrait être satisfait de ça. Et on n'est plus satisfait. Quand il y a eu Michelin, je me rappelle, il y a 20 ans, 17 ans, il y a Michelin qui a un chiffre d'affaires quasiment égal d'année en année depuis 20 ans, 30 ans. Ils ont commencé et ont annoncé qu'ils allaient licencier du personnel. Licencier plein de gens. Pourquoi est-ce qu'ils vont licencier ? Parce qu'effectivement, on n'a pas de croissance de chiffre d'affaires, donc on va licencier pour augmenter nos bénéfices. Est-ce que c'est éthiquement normal de réfléchir comme ça ? Je mets à la porte plein de gens pour que mon cours de bourse monte. Moi, je trouve que c'est la pire horreur. C'est justement de considérer les gens comme des tailles crayons qu'on peut jeter à la poubelle. D'accord ?
C'est interdit en plus par la loi, non ?
Par la loi ? Alors justement, des lois à l'époque n'existaient pas. En 2000, moi j'ai parlé au Sénat à l'époque, en 2000, de ces sujets avec les ministres et tout ça. Et justement, en fait, parce que il peut y avoir des lois, à l'époque il n'y avait pas de loi qui protégeait, et il pouvait y avoir des lois qui allaient se mettre en place pour ça, mais qui allaient aussi empêcher les petites entreprises de licencier et d'être agiles. Donc il y a toujours, en fait, il faut toujours arriver à faire les autres. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, dans les programmes de campagne de Macron, etc., Il y a toujours le sujet de comment je gère une entreprise qui veut se délocaliser et qui n'en a rien à faire des salariés là, etc. Et là, par exemple, il y a les lois en France, c'est je vais obliger l'entreprise à aller chercher un racheteur pour acheter l'usine, etc., avant de partir les mains dans les poches, par exemple. Et là, effectivement, en tant que juif, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin de ces lois même, nous-mêmes, pour faire ce genre de choses. Est-ce que nous, maintenant, si on est patron d'une grosse boîte, est-ce qu'on est là, on va se dire, on a besoin de croissance, je charcute. Non, on va se dire, il faut dire non. Alors que le monde aujourd'hui, on va se considérer comme un grand patron, on va avoir des bonus si effectivement on augmente nos profits. Donc le monde n'est pas fait comme ça. Et c'est pour ça, aujourd'hui, il y a un courant d'éthique, de business éthique, etc., qui essaye de trouver de mettre un peu d'épices à tout ce monde pourri, de le monde économique, mais qui n'y arrive pas vraiment. Qui n'y arrive pas parce qu'effectivement, ça manque de hashkafa, c'est-à-dire que ça manque de vision. C'est très, comment dire, ce sont des sujets qui sont, dont, voilà, on va parler du sujet du climat maintenant, dans 2 ans, on va parler d'un autre sujet, etc. Et nous, c'est pour ça qu'effectivement, nous, en tant que juifs, c'est à nous d'amener cette lumière-là dans le monde. C'est à nous d'allumer cette éthique, etc. Pardon ? Non, c'est à ce cas-là, la lumière. Ouais. D'autres questions ? Ouais.
Moi, j'avais une question. Je ne connais pas trop votre parcours, mais bon, si j'ai bien compris, aujourd'hui, encore, vous continuez un petit peu d'aider les entreprises qui agissent au niveau des hautes technologies, d'être rentable, etc., et vous les aidez à s'améliorer. Mais en même temps, vous critiquez beaucoup et vous avertissez sur les dangers des nouvelles technologies. Mais c'est pas un petit peu, vous me dites si je
paradoxal.
C'est pas un peu contradictoire et du coup, d'un certain côté, comme si on aidait un petit peu à ce que nous, à ce que les gens qui utilisent les technologies deviennent un petit peu esclaves d'elles.
Ouais. Donc la question c'est, moi je travaille dans l'internet donc je participe à ce monde-là dont je parle, donc est-ce que c'est pas contradictoire ? Toutes les sociétés, enfin la grande majorité, donc 90% des sociétés dans lesquelles j'ai investi, sont des sociétés qui résolvent des problèmes. D'accord ? C'était mon critère d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire, j'ai monté un nouveau média, un nouveau truc, etc. On est là pour dire, il y a un problème, une frustration qu'on peut avoir dans notre vie. Je prends un exemple. Moi, je suis cofondateur de Litchi. Vous connaissez Litchi ? Les cagnottes Litchi ? Donc, moi, je suis cofondateur de Litchi. Voilà. Ça, c'est cofondateur, investisseur, tout. Ça, par exemple, Litchi, ça a démarré. C'est l'idée de Céline Lazorte, la patronne, qui a une idée, qui était à un moment au restaurant avec ses amis et qui, à un moment, devait partager l'addition. Et chacun a dit, je vais trop payer, etc. Là, 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 là. Et au final, elle n'a pas su récupérer l'argent comme il fallait, etc. Et donc, elle a décidé de créer des systèmes de cagnotte. Au début, ça a démarré comme ça, des systèmes de pots communs. Et aujourd'hui, c'est utilisé effectivement pour plein d'autres choses magnifiques. Ce problème-là dont elle avait parlé, et quand elle m'en a parlé la première fois, c'était un vrai problème. C'est-à-dire qu'on savait qu'effectivement, on a un problème. Quand on doit se faire rembourser, c'est compliqué. Quand on est des colocataires d'un appart, chacun doit payer... On gère des petites notes, on gère des trucs, etc. Et donc Litchi est venu répondre à un problème. Pour moi, Litchi fait partie des belles entreprises jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, elle aide à financer des personnes handicapées, à gérer des trucs. On a lancé la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a lancé avec ToraBox, on a fait ResetBox, je ne sais pas si vous avez vu, qui est la même technologie que Litchi derrière et qui permet aussi de faire de la collecte d'argent pour les familles pauvres et pour plein de, pour faire du Reset aussi. ToraBox, ouais, ResetBox. Et pardon. Mais là voilà, là on apporte Pierre. J'ai investi dans une société qui fait du transfert d'argent. Ça s'appelle TransferWise. La boîte valait 4 millions, elle vaut 1,4 milliard aujourd'hui. Elle fait du transfert d'argent à faible coût, etc., etc. Donc en fait, moi j'essaye de participer uniquement à des entreprises utiles. Là on m'a proposé de me donner, je sais pas, 5, 10, 15, 20%, ce que je voulais, d'une société qui fait un genre de concurrent de WhatsApp. D'accord ? La différence, c'est que quand on peut parler, on parle en une langue et de l'autre côté, ça traduit, ça dit le truc dans l'autre langue. Bon. Que je dis, franchement, c'est pas ça du tout. À part le fait que je pense que ça ne marchera pas se passer particulièrement, mais j'ai dit, je ne veux absolument pas participer à ça. On te donne les parts, Jérémy, juste tu nous accordes une demi-heure par mois. On te donne 10%, 20%, qu'est-ce que tu veux? Non, je ne participe pas à les choses, à quelque chose de bien. D'un autre côté, pareil, on m'a proposé de participer à une autre entreprise qui fait d'autres choses dans le monde de l'Internet, etc. Et là, je rejoins son conseil d'administration dans quelques jours, etc. Vous voyez, il y a plein de... Effectivement, ça, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas paradoxal. C'est toujours, il n'y a pas... Tout est noir, tout est blanc. C'est... je filtre. C'est ça le sujet. Oh, sujet. Voilà, il est tard. Merci à tous. Pardon, avec plaisir.
Est-ce qu'il y a des sites internet que vous pouvez recommander ?
Ouais.
Parce qu'il y a des
sites. Question de savoir pourquoi. Moi,
Litchi.
On a vendu Litchi, je suis plus actionnaire. Il y a un site que j'adore, c'est le Khan Academy. Vous connaissez ? Voilà, ça c'est un site que j'adore. C'est quoi ? Qui est en fait un genre d'université en ligne. Qui permet en fait d'apprendre des sujets en 10 minutes de chaque. C'est absolument génial. Et après, de moins en moins en fait. Mais,
comment ça s'appelle ?
K-H-A-N. C'est un indien, c'est pas un Cohen.
Comme notre tagui.
La première illustration de tout ce que vous venez de nous dire, c'est qu'au moment où la conférence est arrêtée, vous regardez un peu le réflexe de tout le monde, c'est de prendre le téléphone. Et là, on se rend compte à quel point tout ce que vous avez dit, c'est vrai. J'ai regardé un petit peu, j'allais le faire aussi, j'y ai pensé. Et j'ai regardé.
C'est le réflexe de tout le monde.
Sortir le téléphone.
Salut, service. Je sais pas si on peut placer un service.